Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission 100% football. Hein. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Avec nous, du beau monde autour de la table, comme d'habitude, j'aperçois un maillot du Paris Saint-Germain. Hein. Ça devient un peu une coutume autour de la table. Hein. Omar, comment ça va Omar ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va ? Semaine très calme de football ?
Ouais, semaine très calme. Après, petit à petit,
on patiente, la Coupe du Monde arrive ce week-end.
La Coupe du Monde arrive et franchement, je suis impatient que ça commence là. Déjà, les matchs amicaux, ça met l'eau à la bouche.
Ça commence en tout cas, exactement. Avec nous aussi, Jason, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Toi, t'étais occupé. Hein. On a vu beaucoup de chroniqueurs occupés après le back-to-back. Hein.
Oui, t'étais après, occupé c'est à fêter. Ou... Non, j'avais des petits empêchements, mais maintenant, on est de retour.
Ok, mais ça va sinon.
Ça va, et toi ?
T'as bien admiré la finale ?
J'ai admiré la finale, j'ai vu, et voilà.
pas de félicitations, non ?
Bah, félicitations au Paris Saint-Germain. Ah,
merci.
Franchement, très belle victoire. Ils sont allés la chercher, et franchement, félicitations.
Merci, Jason. Moussa, toujours titulaire du back-to-back, hein, on va dire ça comme ça. Toi, t'as vu un peu les matchs amicaux, c'est une petite mise en bouche avant la Coupe du Monde.
Ouais, c'est ça, on attend que cette Coupe du Monde démarre, mais ouais, c'est pas mal de petits matchs par-ci par-là à voir, c'est pas mal.
C'est pas mal, et avec nous du rouge, hein, comme le maillot du Bayern, hein, c'était les défaitistes de la demi-finale de cette Ligue des Champions. Hein. Alfred, comment ça va ?
Je vais très bien.
Ça va très bien ?
Ouais, ça va.
Pas déçu de la finale ?
Non.
Parce que tu avais annoncé que le Bayern allait gagner. Hein. Après le match aller, tu as annoncé que le Bayern va se qualifier.
C'est vrai que je le confirme, que je pensais que le Bayern allait se qualifier face au Paris Saint-Germain, mais d'entre Dieu, le Bayern n'a pas observé. C'est lancé dans le jeu sans penser que Paris pouvait réagir. Et puis, bon, ben, vers la fin, ça n'a pas suffi. Donc voilà, il faut faire avec.
C'est sûr. Ouais, est-ce que tu peux juste te rapprocher un peu ? On me demande de te rapprocher. Merci, Alfred. Ça va, là, en tout cas. Il y a eu la victoire de la Côte d'Ivoire face à la France. Ça t'a mis un peu de baume au cœur ?
Après, ça reste un match amical. Mais bon, pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est reste historique. Pourquoi ? C'est pour la première fois qu'elle bat la France. Maintenant, au niveau de la sélection française, il y a un peu de doute. Parce qu'il faut dire que ce n'est plus la France qui gagne avec toutes les assurances. Voir la Côte d'Ivoire battre la France, quelque part, c'est un peu... Voilà.
Même s'il y a eu un gros turnover côté français, parce qu'on a vu en première mi-temps, c'était à sens unique. Hein. La France a dominé les débats et gagné 1-0 jusqu'à ce que une grande partie de l'effectif soit sortie. Hein, Kylian Mbappé, Olysée, qui ont suivi, etc.
Oui, fait tourner, c'est bien, mais fait tourner pour rassurer le peuple. C'est ça qui compte. C'est pas... ce qu'on a vu, qui dira que la France ira faire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont pas en sélection, qui méritaient d'être en sélection. Donc, quelque part, même la fin de championnat, au niveau même de tout, presque tous les joueurs, moi, j'ai un peu de doute, hein, parce que si elle avait fait match nul, ok, je pourrais dire que, bon, voilà, c'est un match amical de méforme, de trucs, bon, avant la Coupe du Monde, mais voilà, ils sont sortis un peu épuisés, il faut le dire. Et puis bon, ben voilà, ça tourne pas. Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est les remplaçants ont apporté quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose à faire. Mais elle n'est pas partie convaincante, il faut le dire.
Merci Alfred. Hein. Nous allons parler des matchs amicaux qui se sont déroulés. Hein. Et nous allons parler aussi de la Coupe du Monde qui approche. La Coupe du Monde qui va démarrer ce samedi, messieurs. Êtes-vous impatient ?
Oui, pour moi, oui. Quand même, ça fait...
Quels sont vos favoris ?
Mes favoris, j'en dégage 3. Pour moi, je dirais le Portugal, parce que quand même, ils ont un effectif solide.
Oui.
Et je pense que c'est la dernière de CR7, donc je pense qu'il va se donner à fond. Numéro 2, l'Espagne, parce que sur les derniers matchs que moi j'ai vus, en tout cas, niveau collectif, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Et numéro 3, la France.
Ah, c'est logique, quoi. Voilà. Mais si on vous demande de choisir un seul pays, messieurs, qu'est-ce que vous répondrez ?
Moi, Portugal.
Espagne aussi, je dirais.
Et toi, Alfred ? L'Allemagne ?
Pas l'Allemagne, l'Argentine, on ne sait jamais.
Non, l'Argentine.
Pour un doublé.
Pour un doublé historique,
c'est possible. Le back-to-back aussi.
Back-to-back aussi.
C'est dans l'air.
On verra bien en tout cas, messieurs. Nous allons parler, comme on l'a dit, des matchs amicaux qui se sont déroulés. Hein. On va commencer avec la France qui se sont inclinés à la Beaujoire hein, face à la Côte d'Ivoire, 2-1. Ça n'était plus arrivé avant un match de préparation hein, de la Coupe du Monde. La dernière fois que ça est arrivé, c'était en 2010. Est-ce que vous pensez que c'est une défaite qui présage un mauvais signe ou juste une défaite sans importance, messieurs ?
Sans importance. Enfin, c'est plutôt une défaite, on va dire. C'est pas parce qu'ils ont perdu que la France ne va pas bien figurer. Je pense qu'elle va bien figurer à la Coupe du Monde. Après, c'est juste une petite piqûre de rappel. Attention, les gars, ne pas rester sur vos acquis et bosser quoi. Après, ils ont individuellement c'est costaud. Voilà, collectivement Deschamps, on sait ce qu'il fait. Donc, à voir ce que ça va proposer à la Coupe du Monde. Mais faut faire attention après cette défaite.
Est-ce qu'on pourrait revivre la Coupe du Monde catastrophique de 2010 pour la France aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que c'est possible, Jason ?
Non, après, je ne pense pas, vu qu'il faut seulement une victoire peut-être pour se qualifier. Et en plus, dans la poule, il y a l'Irak. Donc, à mon avis, si déjà tu fais un match nul contre le Sénégal et tu bats l'Irak, tu passes. Donc, je ne pense pas que ça soit au niveau de Naïsna. Et après, concernant la défaite, pour moi, non. Pour moi, ça ne m'interpelle pas. Ce n'est pas quelque chose qui met en danger la France. C'est que c'est parti sur une bonne première mi-temps, malgré qu'il y a eu quelques offensifs de la Côte d'Ivoire quand même, qui a mis tout de même en danger l'équipe de France, parce qu'on a vu un Konaté assez en difficulté. Heureusement qu'il y avait un Upamecano qui a beaucoup rattrapé certaines situations. Mais sinon... la deuxième mi-temps, c'est vraiment là où la France a floppé et la majorité sont des remplaçants. Donc, sur ça, j'ai pas d'inquiétude.
Après, moi, à titre personnel, quand même, j'ai des points d'interrogation. Moi, j'ai l'impression que Deschamps, il n'a pas de bon aussi qualitatif que ses titulaires. En tout cas, on l'a vu sur la deuxième période. Et deuxièmement, il y a toujours eu ce problème. On l'a bien vu sur les buts. Notamment les replis défensifs et les transitions où notamment Marcus Thuram il lâche à chaque fois en fait le marquage, il est en retard sur le marquage et à chaque fois les décalages ils viennent de là. J'espère qu'il Deschamps il a pris note mais j'espère qu'il pourra corriger ça avant le début de la Coupe du Monde face au Sénégal.
Est-ce que pour toi Alfred Marcus Thuram méritait sa place dans la liste au détriment de Randal Kolo Muani ou de Christopher Nkunku ou de Tolisso peut-être de Thauvin peut-être
J'aurais voulu que ce soit Thauvin à sa place. Maintenant comme je dis Deschamps peut-être s'est habitué à une équipe qu'il a depuis un certain moment. Thuram il évolue en Italie, peut-être il y a ce côté-là qui fait que le garde après c'est quelqu'un qui a du poids. Mais Thauvin,
le fait qu'il y a son papa aussi.
Oh, papa, non, faut pas le dire, ça fait un peu protéger la personne. Mais bon, moi, je me dis que non. Après, il faut faire avec la décision du coach. Maintenant, bon, on espère voir la sélection française briller. Mais comme je dis, c'est une défaite d'avertissement, c'est pas une défaite alarmante. Mais de façon honnête, pour l'entrée en Coupe du Monde, on n'a pas vu une sélection française composée d'avant Coupe du Monde. C'est-à-dire qui rassure, vous comprenez ? Parce que là, on a qui comme vétéran au milieu ? Rabiot, des personnes comme N'Golo Kanté, on ne les a pas vus. Or, c'est ça la responsabilité au milieu de terrain. Il faut confier à des gens qui rassurent pour pouvoir aller au niveau de l'attaque. Les gens, ils sont là. Après, il y a les tickets juvéniles qui montent, les Barcola et tout ça. Bon, les doués, tout cela, il faut les mettre en scène pour pouvoir dire qu'on part, on est rassuré, on est convaincu que cette équipe-là va démontrer quelque chose, même si notre poule est faible. Mais attention, parce que le Sénégal est une grande nation aujourd'hui. Et que tous ceux qui tournent au Sénégal avec les jeunes, avec la France... Il se côtoie. Donc, quelque part, pour moi, le Sénégal peut créer la surprise. Donc, pour moi, je dis, l'avant-Coupe du Monde n'a pas été un passage rassurant. Cela ne veut pas dire que la France est faible, mais il va falloir travailler.
La France qui jouera ce soir hein, face à l'Irlande du Nord, bien évidemment, hein, nous allons vous tenir au courant hein, de chaque but qu'il y aura, en tout cas pendant l'émission. On peut déjà vous donner... la composition, hein, Kylian Mbappé titulaire comme d'habitude. Hein, Ousmane Dembélé qui retrouve une place de titulaire, hein, lui qui était un peu fatigué après son match de Ligue des Champions. Désiré Doué qui est à gauche, Michael Olise à droite, Voilà, Dembélé qui joue 10. Hein. Tchouaméni et Rabiot dans au milieu de terrain. On... C'est pratiquement, c'est peut-être même l'équipe type qui va commencer.
Moi, je pense que c'est l'équipe type.
Dans la charnière défensive, t'as Upamecano et Saliba, Théo Hernandez sur le côté à gauche et Koundé aussi à droite et t'as Mike Maignan au goal.
Ouais, ça ressemble à l'équipe type en tout cas.
Ouais, pour moi, c'est l'équipe type. Ouais. Sauf que tu mets Konaté, mais juste parce que Saliba n'est pas là.
Non, Saliba il joue là.
Ah, il joue Saliba.
Là, le titulaire.
Ah, Saliba.
Ouais.
Ouais, ils auraient dû le garder jusqu'à la Coupe du Monde. Pourquoi on le fait forcer maintenant?
Bah c'est vrai, je suis d'accord. Ah
ouais. Peut-être, peut-être qu'il va le faire jouer tester, une mi-temps, je pense.
Ouais. Parce que déjà qu'il a des douleurs, bizarre.
Donc
non, c'est l'équipe type.
Après, concernant Thuram, sur la question d'avant que tu as posée à Alfred, je trouve quand même les gens assez durs à son égard, parce qu'il fait le sale boulot. En fait, bon, sur sa saison, par rapport aux gens qui ont été nommés, il a rien à envier. Lui aussi, il a fait sa saison en Italie, que ce soit en Ligue des Champions en Italie, il a fait sa saison. Et le truc, c'est que quand on a une équipe de France, c'est lui qui fait le sale boulot. Il doit jouer le poste de numéro 9 plus le poste de ailier. Donc ça veut dire qu'en gros, selon les désirs de Mbappé, il doit s'adapter dans le cours du match. Et je pense que déjà qu'il n'est pas favorisé par rapport à la tactique qui lui a l'habitude de jouer à deux. Donc il doit déjà s'adapter à être tout seul en pointe. Et en plus de là, et en plus à jouer sur le côté pour défendre et te remettre dans l'axe quand tu attaques, au bout d'un moment, les cheminements, ça reste un peu compliqué.
Est-ce que vous pensez que, parce que Marcus Thuram évolue avec un autre attaquant, Lautaro Martinez, qu'on sait bien en Italie, hein, c'est deux profils différents qui se complémentarient pas mal d'ailleurs, mais est-ce que ça ne peut pas être différent en équipe de France où il peut avoir un autre rôle mais qu'il n'arrive pas à trouver sa place depuis tout le temps, hein, depuis tout ce temps-là?
Moi je pense que déjà c'est pas, il n'a pas le rôle du titulaire dans cette équipe. Même là, avec les jeunes qui poussent là, il y a Doué, il y a même Cherki qui va. En fait, c'est un bon joker. Il peut rentrer en fin de rencontre.
Devant Mateta.
Après, maintenant que Mateta est là, surtout que Mateta en plus il marque. Est-ce qu'il n'est pas passé devant de... Donc à voir. Mais moi, Thuram, je le mets plus, c'est un joker. Il va peut-être rentrer. Et encore, même s'il rentre pas, c'est pas très grave. Parce que vu vu ce qu'il y a devant, il y a Barcola encore qui est sur le banc, il y a de la place.
En sachant que Hugo est quitté.
Ouais, en plus qu'il est blessé. Donc,
il est blessé, quoi. Enfin, heureusement. Malheureusement, il est blessé pour l'équipe de France, mais voilà.
Là, par exemple, pour moi, en équipe de France, Thuram s'adapterait mieux que Mateta. Parce que le problème, c'est que l'équipe de France ne met pas en avant Mateta. Quand tu vois, par exemple, la deuxième mi-temps, tu sais que tu as un joueur d'appui et qu'il peut marquer sur centre. T'as vu la qualité des centres, t'as vu on n'a même pas beaucoup cherché en appui remise, c'était plus il était au combat pour essayer de récupérer des ballons et de les distribuer plutôt que de faire la planche. Et ça, je trouve que vu l'utilité que tu mets à Mateta, en tout cas avec les remplaçants, hein, peut-être avec l'équipe titulaire ça sera différent, mais si tu n'utilises pas bon escient, Mateta il va te peser parce que c'est pas quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui est lourd, donc si tu joues pas haut comme il se doit, il te sert strictement à rien.
En fait, je trouve que l'équipe de France, en fait, le match qu'on a vu contre la Côte d'Ivoire, en fait, la deuxième mi-temps, je pense qu'il faut pas se baser sur ça parce que tous les changements qu'il y a
ça
dans un match, c'est pas possible. Moi, je pense que en termes de groupe, vu les individualités, en fait, si tu prends juste un remplaçant, par exemple, tu fais Cherki, tu fais sortir Dembélé ou Olysée, c'est pareil. Et Mateta, s'il rentre en jeu, tu peux faire basculer Mbappé et sur un match où, par exemple, tu perds, l'essence, ça va arriver parce qu'ils vont pousser. Ouais. Là, peut-être qu'il peut être utile.
Même sur les corners.
Ouais,
ou quoi, c'est quelqu'un qui va peser dans quoi qu'il arrive sur la défense.
Ouais, moi, je trouve, mais là, quand tu changes trop l'équipe, même pour les autres joueurs, c'est pas un cadeau, en fait.
Ils n'arrivent pas à se retrouver, quoi. Moi, pour moi, ils n'arrivaient pas à se retrouver.
Ah, hein. Il y avait trop de changements.
Trop de changements, ouais.
Mais par exemple, Akliouche, tu le mets juste avec l'équipe type. Bah,
oui,
on l'a bien vu sur les
autres rencontres. C'est ça qui fait la force, en fait, de la France. Différent, mais... Oui, c'est différent.
Merci, messieurs. Nous allons parler après de la liste des Bleus, juste après. Le Portugal, qui se sont imposés 2-1 face au Chili. Hein. Est-ce que vous pensez qu'avec le Portugal a aujourd'hui l'un des meilleurs milieux, si ce n'est le meilleur milieu de terrain, hein, est-ce que vous pensez que Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, est-ce que vous pensez que ça peut suffire à aller chercher le Graal?
Bah, pour moi, c'est le meilleur milieu du monde. Mais malheureusement, c'est pas ce milieu-là qui va jouer, je pense. Parce que Neves, Martinez, ça fait 2 ans, il le met latéral droit.
Donc ouais, je pense que là, il a compris quand même.
À part si là, il a. Voilà, si vraiment il a compris, il le met au milieu de terrain.
Il aime bien
Ruben Neves.
Tu peux pas l'enlever.
C'est ça le truc. Mais moi, pour moi, le duo Vitinha-Neves, plus Bruno Fernandes, au milieu de terrain, c'est le meilleur.
Parce que même Vitinha, il est dénaturé. Vitinha, il joue même pas comme au PSG, pointe basse, parce que c'est Ruben Neves. Ouais. Donc ça veut dire que même lui, il joue un cran plus haut alors qu'il aime chercher les ballons plus bas. Et je pense que s'il met le milieu du PSG, le Portugal peut être très dangereux.
Ah oui.
Mais vu le milieu qu'il met...
Ça dépend de sa compo, en fait.
Il restera que le Portugal ait des failles au milieu.
Ouais. Moi, je rejoins Jason, en fait. Sur le papier, pour moi, il n'y a aucune sélection, en tout cas, qui peut... au niveau du milieu, hein, si on prend les trois... qui peut rivaliser au niveau du... Par
peut-être
exemple,
l'Espagne,
même...
peut-être.
Ouais, bah, l'Espagne, Rodri, en termes de cohésion,
Rodri,
non.
Rodri est trop diminué. Ouais. Tu vas mettre Fabien Ruiz, ok, il a fait un bon euro, mais c'est pas tout le temps son niveau.
Ouais.
Et après, tu vois,
Pedri,
ça, c'est pas assez fluide, quoi.
Ouais.
Comparé à Bruno Fernandez devant.
Ah, Bruno Fernandez, en...
T'as Vitinha et
Juan Neves. Surtout avec l'année qui sort, là.
Après, ouais,
c'est fort. Faire
mieux. Non, moi, franchement, sur le milieu, il n'y a pas mieux. Mais après, moi, c'est plutôt bon. Moi, l'interrogation est plutôt devant. Est-ce que Cristiano Ronaldo va nous faire comme à l'Euro 2004? Il va passer à côté de sa compétition? Ou est-ce que là, il va mettre le costume de super-héros et il va performer, tu vois? Donc, il y a ça. Et sachant aussi que Léao, il n'est pas en forme non plus sur cette partie-là. Et même, je crois qu'il a eu un carton rouge.
Oui, c'est vrai, un carton rouge.
Ouais,
il n'a jamais été en forme, vraiment,
non.
Avec le Portugal.
Même moi, je préfère même qu'il mette Pedro Neto.
Il apporte beaucoup plus.
Pedro Neto, au moins, il court, il défend. Et voilà,
même, il est tranchant.
Ouais.
Après, c'est dommage pour Léo, hein. C'est dommage, hein. C'est très dommage.
En plus, là,
il a un potentiel, mais très fort.
Il rate quelques matchs de la Coupe du Monde avec son carton et son agression qu'il a fait là.
Ouais.
Donc, il peut manger une suspension. Mais Léo, oui, moi, je trouve que c'est un gâchis. C'est un gâchis le fait qu'il est resté autant de temps en Italie. Je pense qu'il aurait dû changer de cap, aller en Espagne ou autre.
Ouais,
parce qu'il s'est empoisonné tout seul en restant à Milan dans le confort. Et Milan, les coachs ont tourné, et sachant que tu mets des coachs qui bétonnent. Et que tu mets un mec qui n'est pas du tout dans le style des entraîneurs, ça fait qu'au final, il ne brille même pas. Il avait terminé une saison où il avait mis 14 ou 15 buts. Mmh. Et petit à petit, il s'éteint. Il termine des saisons à peut-être 5-6 buts. Mmh. Franchement, je trouve que c'est un gâchis total. Tout le monde le voulait il y a une période et maintenant, plus personne ne le veut.
On en parlera sur le point mercato. Hein,
Parce qu'il a dit qu'il part.
Léao. Mmh. Mais voilà. En tout cas, le Portugal a ses chances d'aller au bout. C'est ce qu'on doit prendre. En considération, ok. Le Maroc, qui ont été tenus en échec face à la Norvège, hein, un but partout, hein, avec notamment des blessures de Mazraoui. Bon, Mazraoui, ça a l'air un peu moins grave, mais Abdé, ça a l'air un peu plus grave. Et sa Coupe du Monde est compromis. Est-ce que ça peut peser énormément dans cette balance?
Alors moi, je trouve que oui, parce que c'est un des fers de lance de l'attaque. Avec Brahim Diaz, hier, ils ont très bien commencé le match. Même, ils ont fait une très, très bonne première mi-temps. C'est surtout en deuxième mi-temps où ils se sont essoufflés, parce que je trouvais que le Maroc a fait un gros pressing avec Boadji au milieu de terrain qui s'est bien intégré à cette sélection. Et on ne voyait pas beaucoup la Norvège. La Norvège, très peu offensif en première mi-temps. Et le deuxième mi-temps, je ne sais pas, le Maroc a commencé à s'éteindre et à subir les assauts des Norvégiens. Ils se sont fait égaliser.
Est-ce que, avec la blessure d'Abdé, est-ce que... le 10, là, comment il s'appelle du PSV?
Saïbari.
Est-ce que Saïbari peut pas jouer à sa place?
Ouais, mais c'est pas percutant. C'est pas autant pareil. Saïbari, même là, il utilise 9.
9?
Tu vois, il le fait jouer 9. Et faux 9, en gros, des fois 10. Mais il est un peu trop lourd sur le côté.
Oui, c'est vrai qu'Abdé, il a la portée
de la... c'est comme un Pedro Neto. C'est des mecs qui t'usent le latéral en faisant des appels, des courses et de la provocation sans cesse. Et de l'autre côté, t'as Brahim Diaz qui est carrément son copier-coller. Mais donc, si t'enlèves Abdé, je sais pas qui tu mets là-bas.
Ouais, surtout que moi, je trouve que Maroc, ils ont pas assez de bons pour moi, justement, pour commencer.
Parce qu'en plus, le remplaçant, je crois, c'est Zbaï.
Ouais. Non, après...
Ils ont pris le gars de Angers, là.
Mmh.
Zbaï, là, tu vois pas c'est qui?
Après, non, moi, pour moi, ce changement, il était pas... Enfin, le niveau, il est vraiment pas pareil. Tu vois, tu le vois tout de suite, en fait, dans son entrée. Après, tu me diras, c'est un match amical et tout ça, donc...
Il y a quand même du rythme.
Ouais,
je trouve quand même.
Après, ce qui fait la force du Maroc, c'est que défensivement, ils sont costauds quand même, moi, je trouve.
Oui, oui, oui.
Quand tu vois la dernière Coupe du Monde, c'est comme ça qu'ils... En fait, c'est après avec le cœur.
Erling Haaland a touché 4 ballons en 75 minutes.
Après, c'est un habitué, lui, mais bon.
Mais moi, je trouve quand même que c'était un match qui avait du rythme.
En fait, ils avaient un bon bloc. C'est ça qui peut les sauver.
Il y avait du rythme. Comparé à d'autres matchs amicaux que je peux voir, là, il y avait du rythme, il y avait de l'envie. Tu avais de l'impression, pas un match de Coupe du Monde, mais que vraiment, c'était un match de prépa, vraiment pour se préparer. Tu sentais que là, ça allait dans les duels. Ça allait au massif, que quand tu vois par exemple la France-Côte d'Ivoire, les Français, ils n'allaient même pas au duel. Ils avaient peur de se blesser. Alors que les Ivoiriens, ils leur rentraient dedans. Tu vois. Donc là, je trouvais que le match, des deux côtés, ça se l'a donné. Ils ont eu une mi-temps chacun.
Ouais, après, moi, ouais, avec. Il y a aussi Tarkazine, je crois aussi, qui est blessé. Il y a pas mal de gens au Maroc qui commencent à être blessés. Mais après, oui, moi, sur la première mi-temps du Maroc, autant la première mi-temps, j'étais vraiment d'accord. En plus, ils ont marqué assez vite. Ils ont fait la différence assez vite. Comme tu l'as dit, Abdel a vraiment, sur le but, fait des grosses différences. Mais autant sur la deuxième mi-temps, et moi, c'est ce que. Mon point d'interrogation, c'est un peu aussi quelque part, un peu comme l'équipe de France, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de banc, le Maroc. Je me demande qu'est-ce qui va se passer s'ils sont obligés d'aller en prolongation.
Après c'est un peu comme la CAN, hein, le Maroc, s'il y avait un ou deux, trois blessés dans leur équipe type, ça changeait tout.
Ouais,
c'est parce qu'ils ont eu la chance de quasiment avoir la même équipe tout le long.
C'est vrai.
Bon là on pense notamment à Igaman, Igaman qui a été blessé. Bien servir cette équipe. Et Alfred, est-ce que tu penses que le Maroc peuvent récidiver l'exploit qu'ils ont fait en 2022? Voire mieux, terminer troisième, terminer quatrième ou même peut-être.
Elle sera pas décevante. Après, comme je dis, c'est une Coupe du Monde, donc on ne peut pas sous-estimer les nations. Maintenant, aujourd'hui, après avoir organisé la CAN, elle prépare la prochaine Coupe du Monde. Donc, quelque part, elle a la volonté de pouvoir se battre. Donc, je pense qu'elle viendra avec la motivation de pouvoir faire quelque chose. On verra, mais comme je dis, pour moi, il faut. La préparation, ou soit peut-être l'avant-coupe du monde pour le Maroc, moi je pense qu'il faut compter sur elle. Après, c'est des équipes africaines. Vous retirez le Sénégal, je la placerai en deuxième position. Hein, parce que pourquoi je dis ça, même si je suis de Côte d'Ivoire, ben je dis une chose, la Côte d'Ivoire, c'est pas aussi rassurant face au grand rendez-vous. Hein, parce que quand on veut atomiser la Côte d'Ivoire, on l'atomise vite fait, ça ne réagit pas. Donc pour moi, oui, on peut présenter le Maroc ou l'Égypte. Voilà, après le Sénégal, donc quelque part, oui, elle aura que son mot à dire. Maintenant, quoi, si elle arrive à arriver en quart de finale, ce serait quand même quelque chose de positif. Ça permettrait aux nations africaines de prétendre avoir peut-être 10 places. Ouais. Mais elle doit donner bonne figuration. Pour moi, c'est ce que j'attends de ce Maroc, pour ne pas décevoir. Après, dans l'ensemble, les championnats viennent de se terminer, ils sont un peu en jambes, donc quelque part, le back-to-back a été fait. Donc pour moi, le capitaine et tout, donc... Ça devra le faire. Moi, je ne pense pas qu'ils ont. Soit il n'y aura pas de crispation. Moi, non. Ils vont jouer librement, ils vont s'exprimer. Il aura de la motivation.
Merci, Alfred. Alfred, dis-moi, tu parlais aussi de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Donc, pour toi, la Côte d'Ivoire, tu ne les vois pas faire un bon parcours?
Quand vous regardez la composition ivoirienne dans l'ensemble, au niveau des individualités, de l'attaque, oui, ça réagit. Mais quand vous regardez un peu le positionnement de Sékou Fofana.
C'est une équipe assez jeune, hein?
Voilà, les attaquants au milieu, ça va un peu. Mais Sékou Fofana, pour moi, je ne vois pas ce qu'il apporte concrètement.
Est-ce c'est que juste simplement. Il n'est pas mieux.
Hein, voilà, maintenant, est-ce que l'entraîneur lui-même réfléchit en disant bon, au vu de son parcours, je le mets en demi-défensif pour travailler, pour aider le stopper, le libéro, au moins, je mets Inao devant pour créer du danger comme Mouziala le fait. Mais sinon, pour moi, Sékou Fofana, c'est du décousu, hein, ça court de gauche à droite. Il y a de la combativité, mais voilà, pour moi, ça ne construit rien.
Kessié,
c'est plus rassurant comme avant. Donc, aujourd'hui, on va chercher qui? Or, quand la Côte d'Ivoire est face à des grandes nations, une fois qu'il y a 2-3 buts, c'est terminé. Face à l'Égypte, en Coupe d'Afrique, on a vu qu'elle ne pouvait pas réagir. Donc, malgré les dernières minutes en seconde période, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, ils vont être motivés, mais ça ne va pas suffire. C'est ça qu'il faut voir. Parce que face à la France, je dis une chose, si réellement la France était venue pour vraiment, c'était un grand rendez-vous. Hein. J'ai dit une chose, ça l'a vite fait plier. Pourquoi? Parce que le gardien, Côte d'Ivoire, il ne représente rien du tout. Il faut le dire. Il ne faut pas cacher les choses.
Il a fait un bon match quand même.
Oui, mais il faut le dire. Je ne suis pas en train de salir les gens. Mais non, après, voilà.
Est-ce que ce n'est pas les cadres qui sont défaillants, peut-être?
Les cadres.
C'est-à-dire caissier, c'est-à-dire Fofana.
Oui, mais c'est vers la fin, il faut la reconnaître aussi. Donc, il ne faut pas cacher les choses. La CAN où elle a gagné, on est parti avec un départ. Ouais. C'était pas rassurant. On n'était même pas sûr qu'elle allait gagner. Donc, pour moi, à un certain moment donné,
éliminé, hein.
Même la dernière où on a été éliminé par l'Égypte, d'une part, il y avait une faute gravissime de caissier. Il était loin. Peut-être même qu'il était malade, on nous a caché. Pour moi, j'ai dit une chose, il ne faut pas cacher tout. Il joue bien, mais il n'est pas convaincu. Ouais. La Côte d'Ivoire ne domine pas. La Côte d'Ivoire ne rassure pas. La Côte d'Ivoire n'est pas maître du jeu. Donc, quelque part, quand tu es. Les grandes nations qu'on connaît, bah je dis
ça va être compliqué.
Ça va être très compliqué. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas cacher. Mais non, quand elle gagne, oui, on est content de surgir. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, non. Pour moi,
mais là où moi je suis d'accord avec Faé, c'est qu'il ne peut pas mettre que des jeunes aussi.
Je suis d'accord. Je partage ton avis.
Si tu mets des jeunes devant, des jeunes sur les côtés, des jeunes au milieu, au bout d'un moment, ça va être le foutoir. Surtout, tu vas en Coupe du Monde.
Ouais, mais est-ce que l'homogénéité du groupe. J'ai l'impression que le groupe vit bien, mais sur le terrain, j'ai l'impression que, par exemple, Fofana, il est un peu partout. Caissier, il reste au milieu, mais quand Fofana est un peu partout et qu'il perd le ballon, là, pour récupérer le ballon, c'est compliqué. Et ça, contre une grosse nation qui a un jeu en place et tout, s'il y a un but, deux buts, est-ce que tu vois le Côte d'Ivoire remonter ce score?
Ouais, déjà, tu sais, moi, je dis une chose.
Dans le micro, s'il te plaît, Alfred.
Au football, quand tu es nommé sélectionneur, tu dois faire du travail. Un profil de joueur doit t'amener à porter du changement. D'accord ? Quand on regarde un peu ce que tu dis, que oui, il y a de l'épuisement et tout ça, mais à un certain moment donné, il y a des joueurs qu'on peut transformer. Je prends un exemple simple. Alphonse Davies est un ailier. Il termine latéral gauche. À là-bas, pareil. Donc, quelque part, c'est ça qu'il faut penser. Quand tu sais que vers la fin, voilà, il n'y a pas beaucoup, il y a pas assez de réserves, il faut changer les choses.
Il devrait mettre caissier défenseur central.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Il a pas dit ça.
J'ai dit, dans sa réserve, voilà, travailler pour pareil, pour changer les choses. Mais si vous ne changez pas, vous restez toujours sur le même format, sur les mêmes choses. Ils reviennent. Finalement, vers la fin, il y a qui? Mais l'étiquette qui monte, elle n'est pas habituée au grand rendez-vous, elle n'est pas habituée au rendez-vous de combat. De quelque part,
pas encore.
Voilà, donc vers la fin, ça ne pourra pas faire grand-chose. Vous resterez toujours avec les mêmes. Et puis quand vous perdez, vous dites non, oui, on l'a perdu, mais il faut faire avec. Ben, vous saviez que vous n'êtes pas en forme pour pouvoir gagner. Donc mais voilà.
Est-ce qu'on ne devrait pas prendre cette Coupe du Monde comme un moyen de transition pour préparer pour les échéances futures?
Je pense que c'est la dernière de pas mal de gens.
Ouais, beaucoup.
Caissier,
Série. Oui, après, ils ont quoi? Ils ont 32, 33.
Série, il a 36 ans.
Série,
il joue même pas.
Il joue en Côte d'Ivoire depuis que je suis au collège.
Tu vois.
Ah, mais j'avoue, lui, c'est un moment.
Lui, c'est. Après, c'est peut-être le groupe. Dans le groupe, il est peut-être important.
Dans la liste.
C'est Série, là. Le petit, là.
Ouais, même des Ghislain Konan, quand même. C'est des gens, quand même.
Lui, on peut rien lui dire.
Il est
bon.
Après, est-ce qu'il y a un arrière-gauche qui tient la route en Côte d'Ivoire? Je sais pas, moi, je connais pas.
Ouais, c'est ça aussi. Tu
vois, même la charnière, on me dit que c'est l'une des meilleures charnières d'Afrique.
Kossounou et.
On me dit que c'est l'une des meilleures charnières d'Afrique. Mais il faut juste que.
Non, c'est Kossounou et Ndika.
Il faut juste qu'il y a des joueurs comme ça qui passent là-bas.
Non, pas Agbadou, l'autre.
C'est Ndika.
Celui qui a joué contre la France, là, c'est qui?
Non, mais en vérité, c'est pas Agbadou.
Mais moi, je trouve Singo, moi, je trouve qu'il est bon, Singo.
Comme Singo, c'est latéral droit.
Ah, bah,
oui.
Oui, c'est vrai que t'as.
Oui, c'est Ndika.
D'ailleurs, Ndika, oui.
Mais c'est vrai qu'il y a Ndika. Quand vous voyez un peu ses montées, il peut le transformer. Il y a des entraîneurs qui innovent. Ça permet à l'équipe.
Ouais, Kossounou, tu peux le mettre au milieu.
On peut le mettre au milieu.
En 6.
Oui.
Tu peux le mettre au milieu.
Ça, tout ça, là.
Après,
il est
grand. Voilà. Lui va se dire pourquoi je le mets au milieu alors que j'ai des vrais milieux.
Oui, mais ces vrais milieux sont un peu.
Tu vois, et des vrais milieux qui ont leur réputation.
Mais déjà, regarde un peu. En 90, l'Allemagne gagne. Elle gagne autour de qui? Elle gagne autour de Lautaro Matthäus. Mais Lautaro Matthäus, il est transformé en 10 par Beckenbauer. Ben là-bas, c'est en 6. Donc, quelque part, c'est ça qu'il faut penser, voir ce qu'on peut faire en tant qu'entraîneur. Mais s'il n'y a pas ces pensées-là en vous, pour rien faire, vous resterez toujours et vous ne pourrez pas dire que vous êtes bon. Pour moi, vous n'êtes pas bon.
Vous voulez mettre question en 10.
Merci, merci en tout cas, Alfred. On va poursuivre, messieurs. Omar, dis-nous tout. Le Brésil qui se sont imposés face à l'Égypte, 2-1, hein, l'Égypte de Mohamed Salah, hein, est-ce que tu vois le Brésil faire une bonne compétition?
Oui, Moi, je même si je ne les mets pas dans mes favoris, je pense qu'ils peuvent venir en tant qu'outsider. Après, ils ont une bonne équipe, hein, franchement. Il y a pas
même
mal
leur
de...
milieu de terrain, ouais, Bruno Guimarães, etc.
Casemiro.
Ouais, Casemiro, Bruno Guimarães.
Paqueta.
Ouais, Paqueta. Vinicius, Rafinha.
Moi, je pense que le joueur, ça va être Hendrix, je pense.
Hendrix aussi.
Et même Marquinhos. Gabriel.
Qui n'est pas remplaçant, mais je sens que dans la compétition, il va passer titulaire. Parce que
Marquinhos, Gabriel en charnière.
Ouais, c'est costaud. Ah, Wesley s'est blessé par contre.
Ouais.
Non. Je sais pas, mais il va prendre qui.
Après, non, mais après, j'avoue.
Wesley s'est blessé. Ouais, il fait pas la Coupe du Monde.
Ouais. Il fait pas.
Après, sur les latéraux, c'est
dommage.
C'est le seul point faible du Brésil, mais sinon, la colonne vertébrale, elle est solide pour moi. Franchement.
Ouais, c'est tous des joueurs aguerris. Hein.
Un bon gardien.
Un bon gardien, des bons défenseurs, des bons milieux. Ouais. Voilà, des attaquants aussi qui plantent, même s'il n'y a pas joué au Pedro. Mais même si
on va en parler de Joao Pedro, on va en parler juste.
Rafinha quand même devant. Ouais. Ils ont un bon groupe. Hein.
Ouais, ils ont un bon groupe. Ah, c'est
Rafinha,
pour ça. C'est pour ça que j'ai.
Neymar qui peut jouer.
Et pour moi, franchement, ils n'ont aucune pression.
Ils ont des jeunes.
Parce que les mecs, ils ont la pression. Ouais, ils n'ont aucune pression.
Là, personne ne les attend. Personne ne les attend. Et justement, je me dis, est-ce que ça ne rappelle pas un petit peu 2002 avec toute proportion gardée, hein. Je mesure bien parce que 2002, tu avais aussi une vraie
force de frappe. C'était la Dream Team 2002.
Voilà. Mais en 2002, de mémoire, je crois qu'ils avaient terminé quatrième de leur groupe de qualification. Ils n'étaient pas arrivés en pleine sérénité pour le mondial. Donc je me dis là, est-ce que pourquoi pas, tu vois.
Merci.
Et il y a Neymar aussi.
Belgique, l'Allemagne, déjà qui sont imposés 2-1 face aux USA. Hein. L'Allemagne, où est-ce que vous classez l'Allemagne cette année, Jason?
Moi, je les vois en quart de finale, hein, pas plus. Ils ont une bonne équipe, ça joue, mais après, ça reste
Lennart
jeune.
Lennart Karl qui a été blessé, il va manquer la Coupe du Monde.
Mais ça reste jeune, ça reste friable, ça reste prenable. Franchement, moi, je
manque d'expérience.
Moi, je les vois en quart de finale. En fait, devant, tu sens que c'est la folie, mais déjà, devant, c'est pas des tueurs. T'as l'impression que, tu vois, le Bayern d'avant, tu vois, ils avaient besoin de 60 occasions pour mettre un but. Tu vois qu'ils ont une domination sur le terrain, mais qu'il manque toujours ce petit truc d'efficacité. Et moi, je dirais quart de finale, mais s'ils tombent contre un bon pays, même le Japon. Hein, même,
attention au Japon.
Même le Japon.
Ouais, ils avaient déjà sorti.
Ouais, même le Japon, pour moi, ça les sort.
Attention au Japon, ça progresse d'année en année. Attention au Japon.
Et derrière, je trouve que ça manque de solidité.
Ouais, ce second chapeau, moi, pour moi, l'Allemagne. C'est une bonne équipe, mais je ne les vois pas champion du monde, loin de là.
Ouais. Moi, après, je les mettrai au même niveau que les Pays-Bas. Je pense que voilà, c'est une équipe sympa. Mais pour moi, il y a trop de carences. Et même les défenseurs comme Jonathan Tah et tout ça, moi, c'est pas du haut niveau. Et Neuer, c'est pas le Neuer d'avant aussi. Hein. Voilà. Les années sont passées. C'est très long du Neuer Prime de 2014. Après, ça reste un excellent gardien.
Est-ce que vous voyez de bonnes augures, en tout cas, le retour de Neuer en Allemagne, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse pour les gardiens qu'il n'y a pas de relève, Alfred?
Pour moi, je trouve ça un peu injuste de ne pas donner la chance aux autres. Vous savez, il y a eu une période où il a brillé, c'est vers la fin. C'est pareil, c'est synonyme à... Vous savez, je ne sais pas si c'est en 2006, quand elle avait organisé et que, comme on appelle l'ancien gardien Oliver Kahn était mécontent de se voir second face à Lehmann. Donc pour moi aujourd'hui, il devait passer la main. Pour moi, je ne sais pas si l'entraîneur n'a pas de caractère pour pouvoir lui dire, écoute, voilà, tu dois passer en second, mais bon, pour moi, il est vers la fin.
Non, c'est surtout, il avait pris sa retraite.
Il avait pris sa retraite. Ouais, hein. Ouais. C'est le coach qui l'a rappelé. Hein. Ouais. C'est Nagelsmann qui l'a rappelé, sinon il avait pris sa retraite.
Je ne suis pas sûr qu'il sera titulaire, pour moi.
Ah s'il le rappelle, attends.
Quelqu'un qui doute de...
Non, un joueur qui prend sa retraite.
Pour moi, il le fait revenir pour...
Le cadre. Pour le groupe.
Non, pas pour le groupe, mais peut-être, voilà, au cas où l'autre est blessé.
Neuer, il vient pas pour donner le jeu.
Neuer, c'est titulaire, je pense.
Il vient pour jouer.
Ah, il vient pour jouer. En plus, Ter Stegen n'a même pas été sélectionné.
C'est qui le deuxième gardien?
Je crois qu'il joue.
Après,
c'est le gardien de Mönchengladbach, non?
Non, d'Offenheim. Bowman, je sais pas quoi, là.
Un truc comme ça, oui.
Neuer, il est titulaire.
Mais pour moi, déjà... Neuer, il a tué la carrière de Ter Stegen.
Ah oui. Ouais. Ah non, en fait, c'est Ter Stegen, il n'a pas eu de chance de tomber sur un Neuer.
Ouais, c'est ça, c'est que quand lui, il était à son prime, Bah, Neuer revenait toujours à son prime.
En plus, des fois, il était blessé.
Il était blessé, mais en équipe nationale, il mettait toujours Neuer.
Ouais, Ter Stegen, en plus, il mettait gardien numéro 1 de l'Allemagne. Il mettait ça, mais gardien numéro 1 de l'Allemagne. Mais... tellement il voulait. Ouais.
Mais il n'a pas eu de chance.
Ouais. Mais son parcours à Barcelone était irreposable. Hein. Il était bon. Hein.
Ter Stegen, ah oui.
Ouais, il était bon. Mais après, je pense que mentalement, il a lâché.
Moi-même, au Barça, comment ils l'ont traité après Ter Stegen, je comprends pas comment.
Alors qu'il a été bon.
Il a été, même, il les a sauvés sur pas mal de choses.
Même quand ils prennent des déculottés.
Ouais. Ouais, lui, il a toujours fait ses années.
Franchement, il te prend pas de déculottés où tu dis c'est de sa faute. Quoi. Tu vois, même quand tu perds contre le Paris Saint-Germain.
Il était même énorme à un moment donné.
Tout ça, il a arrêté des arrêts sur les trucs. Tu vois. C'est vraiment non.
Il est tombé sur Neuer à côté.
Après, je pense que comme financièrement, il coûtait pas mal au Barça.
Oui, il avait un gros salaire.
Il avait mérité son salaire.
Non, il l'avait mérité, mais je pense qu'il voulait s'en débarrasser. C'est pour ça que je pense qu'ils étaient un gras d'un côté, tu vois, et qu'ils ont oublié, parce que en 2015, je pense que même si c'était fantastique, il a fait des arrêts décisifs, tu vois, même notamment le match retour là face au Bayern là, s'il arrête pas la frappe de Lewandowski, il y a 2-0, on sait jamais qu'est-ce qui se peut se passer, tu vois. Donc pour moi, ouais,
c'est pour ça qu'on dit le foot est ingrat.
Ouais, je trouve que c'est dommage la fin de carrière de Ter Stegen, mais bon, après ça fait partie du jeu aussi.
C'est ça, ça fait partie du jeu. Messieurs, vous savez quoi ? On va se faire une petite virgule, hein, très rapidement, et ensuite on va revenir avec la mouchi, parce que là, faut vraiment qu'on prenne... Oui, faut vraiment qu'on prenne un petit souffle avant de revenir avec la mouchi, hein, la Belgique qui ont corrigé la Tunisie, hein, 5-0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Belgique aussi forte aussi, hein, avec une vraie démonstration de force, et la Tunisie aussi faible, hein, eux qui ont battu l'équipe de France en 2022. On le rappelle. On y revient juste après. La Mouchi, l'entraîneur de la Tunisie, qui a qualifié la défaite face à la Belgique 5-0 de honte totale, et en sachant qu'on n'est même pas encore à la Coupe du Monde, est-ce que ça vient pas plomber les esprits tout simplement des Tunisiens juste avant ces rendez-vous importants ?
Bon, après, moi, je pense pas, mais dans tous les cas, les Tunisiens, je pense, ils s'attendent pas à grand-chose. Ils savent très bien le niveau de leur sélection. Ils savent très bien que je crois que c'est même, pour moi, c'est l'équipe africaine la plus faible.
Ouais, je pense aussi.
Qui est qualifiée à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas de jeu. C'est une équipe qui est réputée en Afrique pour bétonner et essayer d'arracher le 1-0, 2-0 et pas plus. Et on a vu que contre la Belgique, la Tunisie avait ses limites. Vraiment, on ne peut même pas dire si la Belgique était forte parce qu'en fait, en face, il n'y avait pas d'opposition. C'est sur tous les coups, ils étaient en retard. Deux coups, il leur a fait mal comme jamais. J'ai l'impression que toute l'équipe pouvait se mettre sur lui, ça aurait rien changé. Et c'est des mecs, ils n'avaient pas de niveau. Je sais pas dans quel club la majorité évolue.
Mais c'est vrai, c'est insipide.
Mais ils n'avaient pas de niveau. Ouais. T'as l'impression que c'était une équipe, allez, on va dire de Ligue 2, contre un haut tableau Ligue 1 de Coupe de France qui rencontre, mais qui force pas trop, mais qui s'amuse. Et franchement, la Tunisie, ça m'a fait de la peine. De les voir comme ça,
il y a un gros gap par rapport aux équipes, il y a un gros gap.
Ah ouais, non, ça m'a fait de la peine pour eux.
Moi, en tout cas, la Tunisie, bon, ça confirme leur dernière participation à la CAN. Hein. Y a rien à regarder, enfin à garder dans ce match-là. Après, j'ai même pas d'individualité à ressortir et dire ouais, lui il a fait un match.
Le seul qui a un peu fait le festival, c'est le gars du PSG là, Ayari. Lui, je crois, comme il est pas pro, il a surjoué pour se faire voir. Après, sinon, il y avait rien du tout.
Mais c'est vrai que est-ce que sa phrase là, est-ce que tu dois dire ça avant une Coupe du Monde?
Ouais, c'est ça en fait. Moi, c'est la phrase, c'est ce qu'il dit après.
Peut-être qu'il dit ça pour réveiller son groupe, mais moi je pense que
c'est pas le discours.
C'est ouais, ça, c'est.
T'essaies même de minimiser les choses. Là, c'est un match de préparation, j'ai fait les mauvais choix, etc. etc. Voilà. On sera prêt pour la Coupe du Monde.
Là, ils peuvent compter sur nous. Coupe du Monde avec cette phrase
là. Là, il arrive, c'est honteux, c'est honteux. Je sais même pas quoi vous dire, c'est honteux. Voilà, on a fait un match honteux. Je sais pas quoi vous dire, etc. On sentait déjà que ça n'allait pas bien se passer hein, pour la Tunisie, mais là encore.
Mais à ce point,
là, je pense qu'on va battre des records.
Je pensais que ça allait être dur, mais de là à être inexistant.
Est-ce que vous pouvez me rappeler le groupe de la Tunisie?
Franchement, regarde.
Je crois qu'il y a la Suède dedans, si je dis pas de bêtises. Je les vois pas battre la Suède, ça c'est clair.
Ouais, il y a la Suède, il y a le Japon.
Ah, ils vont pas passer.
Et
un gros, c'est sûr.
Ouais, le gros, je sais plus c'est qui.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais qu'ils vont affronter.
C'est pas l'Allemagne ?
Non, l'Allemagne, non, c'est Côte d'Ivoire-Équateur.
Ouais. Côte d'Ivoire-Équateur, c'est un petit le gros. Pays.
Ça, c'est costaud, ce groupe-là aussi. Hein.
Ouais, non, ce groupe-là, franchement, ce sera pas simple. Après, il y a quoi ?
C'est Tunisie, Japon, Suède et les Basques. Pays-Bas.
Oh là là,
ils sont cuits.
Ils sont cuits.
Pays-Bas, si, au moins qu'ils aillent chercher un nul contre la Japon. Suède. Parce que la Suède, ça reste.
Ouais, mais la Suède, ils vont se dire aussi, faut qu'on aille chercher contre la Tunisie. La Suède, Joker, c'est.
La Suède, t'as Joker et Trizac devant, comme ça.
Joker et Trizac, ils vont se dire.
Ça va planter.
C'est le seul point qui peut. Les seuls points qui peuvent aller les chercher contre la Suède.
Je pense que la Suède, même. En fait, ils vont tellement tout donner, en fait, contre la Tunisie, en sachant que c'est.
Tu fais une victoire,
c'est. Premier match. Suède-Tunisie.
Ah, c'est le premier match.
Ouais, c'est le premier match.
En fait, celui qui gagne est qualifié.
Je pense, ouais. Parce que meilleur troisième, ouais.
En fait, Suède, là, ils vont se dire.
Faut les allumer.
Et là, comme ça, après, là-bas, après, on.
Ouais, au moins, si on prend une raclée contre l'Allemagne ou le Japon, ça
verra
réduit.
Bien, on verra comment ça va se passer. Hein.
Je pense qu'ils vont se faire éteindre.
Deuxième match, après, ça sera contre le Japon. Et dernier match de poule, ça sera face aux Pays-Bas.
Ouais, ça va être chaud.
Peut-être si les Pays-Bas, ils sont déjà qualifiés, ils font tourner l'équipe.
Ils voudront être premiers, quoi qu'il arrive.
Même si
ils
tourner,
parce qu'après, pour le tirage,
ils voudront être premiers, quoi qu'il arrive. T'as trois matchs, en plus, c'est la Coupe du Monde. T'as trois matchs, tu veux faire un 3 sur 3. Ce qu'on sait que c'est difficile Japon, à faire.
Mais pour moi, même en Coupe du Monde, ils font tourner. Vu les joueurs des Pays-Bas, c'est que des jeunes. Donc ça va être des mecs qui vont vouloir prouver. Je pense que
en plus, la Coupe du Monde, tu donnes ta vie. Parce que tu sais que tous les matchs sont bien regardés.
C'est ça.
Tu vois, donc si tu veux
les gens, ils pensent à leur transfert, ils pensent à tout. Donc je pense qu'ils vont les allumer.
Et la déclaration de la Moussi, est-ce que c'est pas une manière de sauver sa peau, lui-même personnellement? Parce que quand on regarde...
Il vient d'arriver quand même.
La Tunisie. Celui qui a qualifié la Tunisie en Coupe du Monde, il a été limogé. Oui. Donc la Moussi, il vient prendre quelque chose qu'il sait qu'il va falloir refaire. Il savait que la merde, elle était là.
Lui, il vient même pour se faire voir, je pense.
La Moussi, de façon honnête, il est passé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait?
Lui-même, il avait retourné sa veste. Lui-même, il avait jamais géré en Tunisie.
C'est pas mon pays, c'est le pays de mes parents. C'est le pays de mes parents. Je n'ai rien à voir avec ce pays.
Il a eu l'opportunité à aller dire.
Et là, t'imagines? Mais en fait, moi, c'est même pas ça qui me choque. Parce que lui, ça me choque pas qu'il y aille. Il est payé pour y aller.
Mais que eux l'appellent.
Voilà, c'est
alors
ça,
que en sachant qu'il a dit.
Mais c'est, en dehors de tout ça, c'est même pas comme si c'était un bon coach. Tu dis vas-y, c'est pas grave. Il est mauvais, la Moussi. À quel endroit la Moussi il a fait ses preuves?
C'est vrai. Et pourtant, elle est là depuis longtemps.
En Angleterre.
C'est ça que je dis tout à l'heure. Je disais, soit dans la tête, je vais prendre mon billet, je fais semblant comme si il savait que le problème il était là. Parce que la Tunisie en elle-même, c'est au niveau du championnat national, il y a eu des périodes où des Africains couraient de gauche à droite. Pour aller à l'espérance de Tunis. À part ça, il n'y a pas eu grande chose.
Et même là, dernièrement, c'est.
Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est down.
Je crois que leur meilleur joueur aujourd'hui, c'est Mejbri et Skiri. Même Skiri, est-ce qu'il est titulaire à Francfort? Je crois même pas. Hein.
Je ne sais pas.
Donc, franchement, moi, après, la Moussi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en fait, en Afrique, on a beaucoup ce type d'entraîneur qui utilise les sélections pour faire leur propre plan. Voilà. La Moussi, moi, j'avais bien regardé qu'elle avait pris la Côte d'Ivoire en 2013. La Côte d'Ivoire, ils ont eu la mauvaise idée de virer Zaoui François pour prendre la Moussi. Il n'a rien fait. Pourtant, il avait une bonne équipe. Hein. Il avait Yaya Touré, Didier Drogba, Gervinho.
Autant prendre un local que ça. Tu vois, le local va plus mettre d'amour parce qu'il vient lui-même du pays qu'un Français qui entraîne une sélection africaine qui vient prendre son billet et, comme on dit, se faire passer pour le sorcier blanc ou je ne sais pas quoi.
Donc, messieurs, pour vous, la Tunisie, ça fonce droit dans le mur.
Là, tu dis un zéro pointé, je pense.
Moi, quand tu fais une déclaration comme ça, pour moi, comme je l'ai traduit, c'est qu'en fait, je pense que même son équipe, les joueurs l'ont lâché. Mais voilà,
mais lui, il a lâché ses joueurs même avant que les joueurs lâchent. Lui, il a dû lâcher ses joueurs même avant que ses joueurs
lâchent. J'ai l'impression, en fait, la Tunisie, tu vois, en fait, la Tunisie, quand tu vois, même les petites équipes, par exemple, une équipe comme le Cap-Vert, les Curaçao, tu vas plus prendre de plaisir à voir leur match que la Tunisie. La Tunisie, je sais pas, c'est compliqué.
En fait, tu prends du plaisir que quand l'autre équipe.
C'est ça.
Aujourd'hui, même dans des sélections africaines qui prennent les entraîneurs, les expatriés, il y a toujours des connexions. Ça passe des coups de fil par-ci, par-là. Écoute, vas-y, pousse-le, faut toi.
Et je suis obligé de, excuse-moi Alfred de couper, mais je suis obligé de repenser au jeune là qui avait 20 ans, qui a refusé
De la sélection.
De la sélection,
Tunisienne.
Ouais, il a refusé la sélection.
Qui ça un jeune qui joue en D2 en Allemagne.
D2.
Ouais, Allemagne ouais, et D2 son Allemagne. Père il a dit mon fils n'est
il
pas prêt.
Il a 18 ans, il a 18 ans, il est bon hein, parce que pareil c'est un bon espoir hein. Et là, il a la double nationalité.
Avec c'est quoi la double?
L'Allemagne, Tunisie.
Ouais, Allemagne, ils attendent Tunisie. De voir s'il a, s'il a le temps de monter.
Voilà, exactement. Et du coup, là, la Tunisie l'avait appelé, il avait dit OK. Et après, finalement, son père l'a appelé pour lui dire que c'est plus possible, qu'il ne viendra pas. Et il a essayé d'appeler son père et le joueur.
Pas de réponse.
Aucun n'a répondu, il l'a dit en conférence.
Mais parce que là, quand tu te vois qu'ils prennent un mec du PSG qui n'a jamais joué avec l'équipe première,
ça, ouais,
tu te
rien.
Dis, c'est critique.
Il est au pôle espoir.
Va prendre un mec de national même. Un mec qui a de la compétition. Ou un mec de Ligue 2. Mais tu peux pas prendre un espoir.
Après le vivier tunisien, il est fatigué. Ouais, pour moi, il est sous infiltration des binationaux. Même quand tu regardes, Hannibal Mejbri, tu regardes Esquiri.
Avant c'était Kadri.
Ouais, même Kadri, c'est un binational. Il y avait
aussi Msakni.
Msakni.
Ouais, Msakni, lui, il était bon, lui, tu vois, c'est un produit local. Ou même Laïdouni aussi.
Très aigué.
Chamak,
c'est Maroc, c'était très aigué. Très aigué, c'est un Tunisien. Non, c'est égyptien.
Égyptien.
Qu'est-ce que je raconte?
Non, après, ouais, non, franchement, sur le vivier, en fait, de la Tunisie, je trouve que, voilà, c'est pas comme le Maroc.
C'est pas pareil. Après, ils ont bossé ces pays-là aussi.
Excusez-moi, messieurs, on va juste poursuivre. L'Espagne qui ont été tenus en échec un partout face à l'Irak. Le coach qui a fait des déclarations aussi. Maintenant, en gros, on se posait des questions, mais maintenant, on sait. Qui mérite ses places, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Étonné de voir ce résultat. Après, j'ai pas vu le match, donc je peux pas trop me placer dessus. Après, je dis ça reste un match de préparation, même si je suis étonné que l'Espagne se fasse accrocher par l'Irak. Mais bon, ça, pour moi, ça reste un match de préparation. Je pourrais pas en dire plus, mais très surpris d'avoir vu ce résultat.
C'est vrai que quand tu vois le résultat, tu dis « Ah, comment, c'est bizarre ». Tu dis l'Irak, bon.
Mais surtout l'Espagne, Irak, tu te dis bon, même tu mets un peu des remplaçants, tu te dis ça tourne un peu à l'amusement.
C'est pour ça que je vous dis Espagne, attention. Espagne, attention. Après, même si Yamal n'était pas là.
Après, moi, c'est
un bon groupe quand même.
Je ne me base pas dessus. Parce que les mecs, ils jouent à 40%, tu vois, encore, avec les blessures qu'ils entendent, ils vont jouer encore avec moins de pourcents.
Il y a beaucoup de blessés là.
Messieurs, on va poursuivre. Hein. La Coupe du Monde, Kamavinga, qui est en train de faire des études à Harvard, qui est déjà aux États-Unis, mais qui ne jouera pas avec l'équipe de France. Colomoigny aussi, grand absent. Fofana aussi, de l'AC Milan, qui est absent. Nkunku aussi. Coman aussi, qui avait déjà fait des déclarations un peu. Voilà, il a dit moi, si je viens, c'est pas pour m'asseoir sur le banc. Il avait été clair.
Après,
il est
situé tout seul.
Il a dit moi, je veux pas venir pour m'asseoir sur le banc. Ça ne m'intéresse pas.
Il a été clair.
Voilà, il a été clair au moins. C'est pour ça que je pense qu'il n'a pas été pris aussi. Hein, et le fait qu'il soit en Arabie Saoudite ou pas, parce que.
Il le prenait quand même.
Chevalier, grande déception. Hein. Tolisso qui n'a pas été pris. Tovin non plus. Est-ce que pour vous, c'est assez logique, messieurs? Et Saliba, est-ce que pour vous aussi hein, avec est-ce que déjà c'est logique pour vous les absences très rapidement, messieurs, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter, mais est-ce que déjà pour vous c'est justifié toutes ces absences-là? Kamavinga, Colomoni, Fofana, Nkunku, Coman, Chevalier, Tolisso, Tovin.
Rapidement, dans la logique d'échange, je dirais oui. Après, dans la logique sportive, ça peut se discuter, comme Tolisso et Tovin notamment. Pour moi, voilà.
Ouais, c'est des gens qui ont fait ce. Il a son groupe, il a sa manière de faire son groupe et il faut l'accepter.
Moi, je partage un peu votre avis, mais surtout, c'est surtout pour Coman qui n'est pas arrivé. Après, bon, au niveau de l'attaque aussi, il y a de la qualité, il faut le dire. Mais il faut reconnaître que Coman a quand même d'énormes qualités, hein, parce qu'il peut arriver que Ousmane Dembélé passe à côté.
Ouais, mais
hein.
tu l'aurais pris à la place de qui?
Quel joueur? Parce qu'il y a les jeunes qui poussent. Hein. Doué, Barcola, Akliouche.
Pour moi, il a été oublié parce que Doué, c'est un peu le même prototype, mais on pourrait dire que là, il est en mieux.
Parce qu'il finit mieux.
Voilà.
Il a plus de finition.
Ça, en fait, il y a beaucoup Coman, de.
C'était le dernier geste sur lequel il pêchait. Il fait des différences. Et en plus, Coman, t'es pas à l'abri d'une blessure à tout moment parce qu'il se blessait souvent sur ses accélérations, sur ses changements de rythme. Mais sinon, sur les grands absents, pour moi, il n'y a pas de gros scandale. Comme on a dit, c'est Tolisso Et oui. Tovin, en fait, mais après, c'est pas des gros scandales.
Et pour vous, Kamavinga, il l'avait pas.
Non, non.
En fait, c'est plutôt saison. Qu'il a pris 9 attaquants, 9 défenseurs. C'est ça qui.
Après, moi, vu sa saison, c'est pas un scandale. Après, ça, c'est pour aussi lui mettre une piqûre de rappel pour lui dire.
Faut que tu travailles.
T'es souvent appelé. Mais là, dis-toi que réveille-toi. Toi, le jour J, t'es pas là. Donc, la prochaine fois, réveille-toi.
C'est dur quand même parce que en sachant que c'est sa dernière Coupe du Monde de Deschamps, là il se dit
après, après, il est jeune, il est jeune,
il pourra en faire d'autres.
Il est jeune,
il pourra en faire d'autres qui se relance déjà.
Messieurs, on va poursuivre. Est-ce que vous pensez que Saliba pourra tenir sa place malgré sa blessure au dos?
Moi, je pense. Après, il a ça fait longtemps qu'il est blessé au dos. Il a fait une finale de Ligue des Champions et en plus, il a fait un bon match. Donc là, avec du repos et tout, je pense qu'il va tenir. Mais au pire, s'il ne tient pas, bon.
Après, moi, je pense que tout dépend son ressenti. Hein, parce que surtout, la Coupe du Monde, tu joues quoi? Tous les 3-4 jours. Ouais, donc en plus, avec le climat, tout ce qu'il y a. Je pense que si la France gagne le Sénégal, il sera peut-être mis au chaud.
Oui.
Parce que tu auras déjà une sécurité quasiment d'être qualifié. Donc,
ça tourne, ça va tourner. Tout
voilà.
Il y a un groupe. Hein,
je pense pas qu'il enchaînera les 3 matchs.
Non, je pense pas non plus.
Messieurs, la liste du Brésil, nous avons penché dessus. Hein. Neymar qui a été sélectionné, mais qui est encore blessé. Est-ce que pour vous, c'était une obligation de la part de Carlo Ancelotti de le sélectionner? Et est-ce que pour vous, Joao Pedro est l'absent de taille de cette liste?
Moi, je pense que le cas de Neymar, je pense que Ancelotti, au Brésil, il y a une pression énorme. S'il n'avait pas pris Neymar, je pense que son poste là et que la Coupe du Monde se passe pas bien. Son poste est en danger, je pense.
Bah, il a été prolongé avant.
Je pense que
la pression là-bas au Brésil,
il y avait tellement une pression.
Ah oui.
C'est que même quand il est parti voir un concert, on lui a dit prends-le. Tu vois, c'est
en fait c'est Neymar, c'est
on
c'est joyeux.
On t'annonce la couleur.
Quand il l'a annoncé aux journalistes, on a pu voir la fête qui s'est
passée.
Et après, si Neymar se blesse, il se blesse et tant pis. Mais au moins.
Je pense qu'il n'avait pas le choix.
Est-ce que vous pensez qu'il pourra apporter à cette équipe?
Comme joker, moi, je pense.
Oui, il ne peut pas débuter. Hein.
Je pense, il va apporter. Je pense qu'il va apporter.
Après, il faut beaucoup faire attention. Le Brésil reste le Brésil. Mais quand le Brésil est face aux équipes d'Afrique, d'Amérique latine, c'est pas du jeu.
Non.
Parce que le Chili ou la Colombie, la bataille, c'est costaud, c'est l'Afrique.
Même l'Argentine.
Donc là, Neymar n'aura pas beaucoup de chance.
Non.
Mais en Europe, il peut faire son petit malin.
On le laisse.
Voilà.
On le laisse.
Je suis d'accord.
Et les Sud-Américains, quand ils l'affrontent, Neymar ou pas Neymar, il le casse.
C'est dommage, mais bon. Après aussi, il finit combien avec son club?
Oui, il finit mal avec son club, mais lui, il est bon quand même.
Oui, lui, il est bon, mais devant, après, il faut faire des choix.
Il a marqué plus trop.
Oui. Les joueurs qu'il a pris à sa place.
Après, il a repris aussi. Après, il a repris.
Après, t'es obligé de prendre Igor.
Parce que Igor, il fait une saison, c'est le meilleur buteur brésilien.
Oui, mais maintenant. Ryan, etc.
Ah, Ryan, c'est pas mal aussi. Hein.
Oui,
c'est un genre
si
de côté.
Si tu devais enlever un mec, c'est Hendrick.
Ouais, c'est soit lui, soit Hendrick.
Mais Hendrick, comme c'est la
coqueluche,
on va dire, voilà, c'est la valeur montante du Brésil.
Et il a une grosse.
C'est le nouveau chouchou. Ouais. Donc lui, il a été pris pour ça aussi.
Ouais, c'est parce que. Sinon, pour moi, les joueurs, c'est des joueurs de côté après lui.
Donc pour vous, c'est justifié.
Justifié.
Après, c'est pas un scandale.
Ouais, c'est pas un scandale. C'est dommage, mais c'est pas un scandale.
Merci messieurs, nous allons passer à la liste de l'Angleterre. Trent Alexander-Arnold qui n'a pas été sélectionné, Cole Palmer non plus et Phil Foden. Les absences de taille, est-ce que c'est justifié, Omar?
Pour moi c'est justifié. Après, je peux comprendre que en Angleterre, en fait, Thomas Tuchel il joue gros parce qu'en fait c'est un peu comme dans le cas de Neymar où je trouve que pour moi Palmer et Foden en fait ils vivent sur des, on va dire comme c'est un peu des golden boys, ils vivent un petit peu sur le passé. Mais statistiquement, quand on regarde leur saison actuelle, moi je suis désolé, hein, Cole Palmer, je l'aime beaucoup, mais cette saison, c'est pas ça. Foden, pareil. Trent Alexander-Arnold, il est revenu bien à la fin avec le Real Madrid, mais si on reprend sur la saison, c'est pas bon.
Après, de toute façon, Tourelle, il s'est justifié.
Après, il a été beaucoup blessé aussi.
Oui,
après,
ils ont été bons l'année d'avant, surtout.
Et Trent, faut savoir que Trent, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer aussi latéral. Et Trent, c'est le mec qui a une patte dans l'équipe, qui va tirer les coups de pied arrêtés, qui va pouvoir apporter ce truc-là dans cette équipe. Donc,
Tourelle, parce qu'il a été questionné pour ça et il a dit, moi, si j'ai pas pris ces joueurs-là, c'est parce que je sais que dans le groupe, s'il prend pas Palmer, il le met sur le banc, ça va jaser et ça va tuer son groupe.
Mais même en gros, il a dit qu'il les prenait pas parce qu'il rentrait pas dans sa tactique. Aussi, parce qu'en gros, lui, il s'est pas dit je prends des noms. Lui, il veut prendre un groupe. Quitte à prendre des mecs de Nottingham, il va préférer prendre un Anderson qui rentre dans sa tactique, qui va mouiller le maillot, qu'un Palmer qui a un nom et qui va pas jouer comme il le souhaite. Et que s'il lui fait un reproche, ah ben voilà, non, ça va jaser.
Après, ils ont un gros vivier aussi quand même. Hein.
Voilà, et surtout qu'il faut se dire que les Anglais, ils ont tous les mêmes profils. Ouais. Foden, Palmer. Tu peux pas tous les prendre, même tu les mets tous sur le terrain. Rodgers. En fait, c'est, voilà, c'est tous la même chose. C'est tous des joueurs qui demandent balle au pied, qui prennent pas de profondeur, qui sont habiles techniquement, mais ils sont tous pareils. C'est la même chose comme tu prends Foden et Palmer, deux gauchers, similaires, qui demandent tout le temps balle au pied, qui... Tu vois, dans les petits espaces, ces trucs, mais c'est
tu vas pas avoir toujours le même profil. Il faut des profils un peu percutants.
T'es obligé de faire des choix.
Comme Gordon ou comme Rashford.
T'es obligé.
Voilà. Et après, ils ont un gros vivier. Quand tu vois leur équipe, elle est pas dégueulasse, leur équipe.
Ouais, après, ouais, c'est vrai, ils ont un gros vivier.
C'est juste que je pense qu'il a voulu mettre sa patte, retourner la table et voilà. Si t'es pas content, bon bah.
Après, la surprise, je pense, surtout de leur équipe, c'est Spence.
Le défenseur de Tottenham.
Ouais. Lui, c'est, pour moi, c'est la surprise.
Après, il a fait une bonne saison. Ouais, après, c'est Tottenham, mais lui,
il a fait une bonne saison.
Ouais, mais. C'était pas un mec qui était appelé régulièrement.
C'est à droite, il a pris Spence.
Il joue à gauche.
Ouais. Et c'est qui à droite?
C'est comme Cancelo, en gros. Il joue, il revient toujours sur le
terrain. Il a pris qui comme latéral?
Je sais pas.
Rhys James. Ah oui, Rhys James, j'avais oublié. Oui, Rhys James.
Parce que Spence, par exemple, quand il a joué là, par exemple, là, contre la Nouvelle. C'était qui?
La Nouvelle-Zélande. La
Nouvelle-Zélande.
Ouais, Nouvelle-Zélande, ils ont gagné.
Il a joué à gauche.
Ok, messieurs, donc pour vous, c'est justifié, hein, ces absences. Du coup, on va passer à la liste de l'Espagne. Carvajal absent, Hussein absent. Est-ce que pour vous, c'est justifié?
Après...
Moi, j'aurais peut-être pris quand même Carvajal, parce que c'est quelqu'un d'important, c'est un cadre. Même si
en sachant que c'est peut-être sa dernière Coupe
du Monde. Même si c'est vrai qu'il... Même en termes de niveau, peut-être que d'autres sont meilleurs, mais il faut quand même que des
fois...
Il
est quand même bon, il est là pour faire le sale boulot.
Oui, c'est vrai.
Il rentre, vous savez que
moi, pour Carvajal, pour un au revoir, je pense que c'était bien de le prendre. Hussein, non, je trouve que lui, c'est mérité. Lui.
Pour toi, Laporte, Normand, etc.
En fait, c'est pas meilleur, mais est-ce qu'il a fait une bonne saison, Hussein?
Ça va quand même. Ouais, mais... il a terminé dans la meilleure défense de la Liga. Hein.
Oui,
cette
c'est
saison.
Vrai. Oui, c'est vrai.
Il fait quand même. Moi, je trouve que juste les gens.
Que la porte,
moi, je trouve. Attends, moi, je trouve que les gens, ils ont été très durs avec Hussein. Pour moi, il fait pas une top saison. Hein. Il y a pas de souci. Mais il fait quand même une bonne saison.
En fait, je pense que c'est parce que c'est un défenseur qui. Il ressemble pas aux autres. En fait, quand on entend un défenseur, pendant qu'on attend un Rudiger qui est dur sur l'homme.
Surtout que t'es bon, en fait, avec l'Espagne. Ces derniers temps, quand on t'appelle, même avec l'Euro, il fait un superbe Euro, etc. Quand on t'appelle, tu fais des bonnes prestations.
Ouais, je suis d'accord, ouais. Donc, je suis d'accord.
Je
peut-être Hussein, ouais, je suis d'accord.
Après, là, je vois pas Laporte ou le Normand, etc. Je les vois
mais
pas.
Ils ont toujours été là, eux.
Ouais, mais je les vois pas. Mais
même à l'Euro.
Hussein, sa qualité, c'est quoi? C'est la ressortie de base. Et l'Espagne, c'est ça leur jeu.
Bah oui.
Donc, c'est vrai qu'il rentrait plutôt dans. Ouais, c'est dommage. En plus, il est jeune.
Pour ma part.
Moi, je pense qu'il fait une bonne saison quand même.
Oui, il est dans la meilleure défense, c'est vrai. C'est vrai, ça a compté.
Ça compte aussi.
On dirait pas, mais c'est vrai.
On dirait pas, mais. Ça compte aussi. Et tu regardes, il ne fait pas tant d'erreurs que ça. Quoi.
Non.
Voilà.
Non.
En tout cas, moi, pour ma part, Normand, Laporte, c'est les tauliers. C'est les tauliers, ils ont toujours été là. C'est les mecs qui ont un peu de bouteille. Et quand il faut aussi, quand l'Espagne, il faut jouer dur, c'est les mecs derrière qui jouaient dur. Comme quand il y avait Nacho. Tu vois, il faut aussi des mecs qui savent être bons à la relance et qui vont au mastic.
Bah, Carvajal, je l'étais bien dans ce.
Après, ils ont rentré aussi Koubarsi. Ils ont rentré Koubarsi dans la charnière.
Ouais, vrai,
et celui qui a pris la place de Hussein, c'est Pubil.
Pubil, ouais.
Et Pubil, on peut pas lui enlever sa saison.
Il a fait une très bonne saison.
Parce qu'il a fait une très très très
bonne
saison.
Moi, je le connaissais pas, mais franchement...
Ouais. Si Pubil fait pas cette saison, Hussein, il est à la Coupe du Monde. Pour moi, ça s'est joué entre les deux parce que les autres, ils sont intouchables. C'est à chaque fois les mêmes qui jouent.
Pour moi, Carvajal aussi, il était intouchable.
Ouais, après, le problème, Carvajal, c'est qu'il a été blessé longtemps.
Poro et qui?
Et Poro, il joue tout le temps.
Poro et le Lame, la doublure, c'est qui?
Et je sais plus c'est qui la doublure. Parce que Poro, il est souvent là.
Okay. Oui, il joue souvent, mais après, il fait pas une top saison.
Non. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais après,
Carvajal,
il a cette expérience.
Il a les titres avec.
Il a cette expérience, tu sais, qui va encadrer le groupe. Il va pas être relou et que c'est un mec il peut te servir surtout sur les gros matchs. Il a l'expérience
à droite, il y a pas Llorente aussi à droite.
Ouais, Llorente. Mais ce qui me fait penser cette Espagne là, en fait, sur quoi c'est biaisé au niveau des saisons, c'est que cette Espagne là me fait penser au Chili. les mecs, ils sont bons en équipe nationale et sont pas forcément top en club. Ah, avec, oui. Tu vois, mais lui, le coach, il a son homogénéité en club. C'est comme par exemple, on va dire, je te prends Oyarzabal ou un truc comme ça. En Espagne, t'as l'impression qu'il est Haaland devant.
Ouais, il est bon. Ouais.
Et à la Real Sociedad, il va être bon, mais sans plus.
Parce que, non, parce qu'à côté, il est bien accompagné en Espagne.
Oui, ouais, mais c'est pour ça que
c'est un tueur quand même.
C'est un très bon joueur.
Il a un collectif qui est unique.
Le niveau qui.
Moi, je le verrais bien.
Tu te dis, tu le. Qu'est-ce qu'il fait dans ce club-là? Et quand je vois l'Espagne, moi, ça me fait penser exactement au Chili. C'est, tu les vois en équipe nationale, tu as l'impression que c'est d'autres joueurs. Et en club, quand ils sont un peu séparés, ils sont tous à 6,5, tu vois. Ils ne sont pas tous vraiment au top.
Ouais, tu vois, ouais, je vois. Mais c'est vrai, le Chili 2014-2016,
c'était
exactement
ça. Ouais, c'est ça. C'est, ils sont très bons ensemble. Et quand tu les prends tous dans leur club...
Bah, c'est comme l'Uruguay aussi. L'Uruguay, ensemble, ils sont bons. Mais en club, des fois... Bon, après, il y en a qui ressortent du lot, mais... Ouais.
Et l'Espagne me fait penser à ça, moi. C'est, et lui, il a opté pour plus le collectif qui dure depuis quelques années.
Merci, messieurs. On va se faire une petite pause hein, avant de revenir avec la météo aux USA. On a vu que il va avoir pas mal d'intempéries, de grosses chaleurs, de fortes pluies, des camps. On a vu des camps d'entraînement ou des bases en plein milieu de la forêt, entourées de serpents ou la Suisse, oui, la Suisse notamment, qui ont leur truc entouré d'un endroit où il y a eu plusieurs attaques de serpents, plusieurs morsures sur des randonneurs, etc. Est-ce que cette Coupe du Monde, et même hein, on annonce des intempéries qui vont arriver, on aura le droit à tout, de la forte chaleur, aux grosses pluies, de la grêle, des matchs interrompus pendant de longues minutes, voire pendant des heures. Est-ce qu'on va pas suivre la pire Coupe du Monde en termes d'organisation qu'on ait eu? On voit ça juste après.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission, on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Montparis FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Montparis FM, il est 21h44 si vous venez de nous rejoindre. Nous avons parlé un peu de l'équipe de France, qui sont toujours tenues en échec d'ailleurs, 0-0 face à l'Irlande. Pays-Bas qui ont ouvert le score grâce à un penalty de Gakpo face à l'Ouzbékistan. Voilà pour les matchs en direct. Nous allons parler là de la météo, de un peu le déroulement de cette Coupe du Monde. Un peu spécial hein, avec des matchs à toute heure, comme on l'a dit, en plein milieu de la nuit, hein, et des matchs qui pourront être interrompus par... pendant de longues minutes. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, selon ça? Est-ce que ça peut impacter les joueurs, que ça soit sur les blessures, physiquement ou quoi?
Déjà, il y a aussi la nouvelle règle des cartons là, qui rentre en place. Est-ce que ça aussi ça peut modifier quelque chose? Plus le, comme t'as
Est-ce
dit
là. Est-ce que tu peux développer là?
Tous les 20 minutes, il y a une pause de 3 minutes, avec pub ou pas, en fonction du diffuseur. Et du coup, c'est un peu à l'instar du basket, un peu. C'est-à-dire que t'as 4 mi-temps, en fait. 4 mi-temps. Même tactiquement, pour les coachs, c'est pas facile aussi. Parce que tu commences on a toujours été habitué au 45-45, donc tu mets des choses en place.
Est-ce que ça va pas être un truc aussi pour réajuster si tu vois que ça va pas,
oui.
Ça va pas, etc. Mais est-ce que ça va pas plus hacher les matchs et favoriser les blessures?
Physiquement, oui, parce que là tu fais 20 minutes, t'es à fond, t'es bien en rythme, et là la température de ton corps redescend pour repartir encore.
Donc on aura le droit à des temps additionnels de plus de 10-12 minutes comme en Arabie Saoudite, voire plus. Quoi.
Ouais, donc à voir, je sais pas, c'est peut-être expérimental, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est avec...
Ouais,
Moi
je pense qu'aussi, il y a certaines... Enfin, pour moi c'est plus des équipes de type défensif que ça va favoriser. Ça me rappelle un petit peu cette histoire quand on parle un petit peu à la Coupe d'Afrique où on dit que le climat ça joue. Et bon, après, toute proportion gardée, mais je pense que justement, les organismes, les équipes où les joueurs, ils ont fait beaucoup de matchs, et c'est le cas notamment des nations européennes, est-ce qu'ils ne vont pas arriver éreintés déjà aux USA, est-ce que ça va pas jouer? Et aussi, il y en a beaucoup qui font leur préparation encore en Europe. Ils ne sont même pas partis en Amérique. Est-ce que ça ne va pas jouer aussi? Donc, c'est des questions que je me pose. Puisque je m'en souviens, en 2002, bon, j'espère que ça ne va pas arriver, où l'équipe de France, elle s'était un peu préparée ici. Mais bon, elle n'avait pas bien pris la mesure en allant en Corée du Sud. Et ça s'est mal terminé.
Je trouve c'est un tournant, en fait, cette Coupe du Monde, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a pas mal de raies qui rentrent, il y a la VAR, en fait, il y a pas mal de choses. Moi, je trouve que ça dénature un peu le foot. Parce que faire des cartons comme ça, je vois pas l'utilité. Encore quand il fait chaud, et encore, oui, tu bois deux minutes. Mais là, trois minutes, non, c'est compliqué, je trouve.
Bah après, est-ce que les organismes ils peuvent tenir?
Bah, bien sûr qu'ils peuvent tenir, ça a toujours été.
Ouais, mais après, tu sais, on fait de plus en plus de matchs, c'est de plus en plus de haute intensité. Donc, est-ce que ça... Ouais, après, je vois ce que tu veux dire. Ces micro-coupures, forcément, ça casse le rythme. Mais est-ce que c'est pas une contrepartie pour pas user les joueurs? Je me pose la question.
En tout cas, je suis d'accord avec Omar, c'est que les pays qui ont décidé de continuer à jouer en Europe, mm-hmm. au lieu de s'acclimater directement au pays auquel la Coupe du Monde se passe, ouais. Ça va leur faire un changement total. Parce que si tu passes là en France, il fait froid, il fait pas très chaud, tu passes à 35, 32 degrés d'un coup et tu dois faire des efforts, le souffle n'est pas le même. Tu vas peut-être certainement affronter une équipe qui a déjà fait sa préparation sur place. Donc, eux, ils sont déjà conditionnés. Donc, ça veut dire que toi, le temps de chercher ton souffle, tout le reste.
Et les horaires.
Tous ceux qui ont fait leur préparation en Europe, s'ils tombent contre des blocs bas bien structurés, qui ont déjà pris la température du pays local, ça va être compliqué.
Et les horaires, c'est pas les mêmes. Là, tu vas jouer à 14h.
Le soleil n'est pas pareil. Si, comme tu dis, la pluie, à mon avis, s'il pleut, ça va être des averses. Donc, ça ne va pas être les pluies d'ici. Non, ça engendre plein de choses. Après, je ne pense pas que ça peut jouer au niveau des blessures, mais ça va se jouer beaucoup au niveau du rythme. Comme Moussa l'a dit, par rapport au carton, ça te coupe les jambes. Tu vas, admettons, les grosses nations, je pense qu'ils vont certainement commencer fort. Donc, au bout de 23 minutes, on te dit stop. Les autres, ils ont le temps de souffler, de reprendre de l'énergie, d'être repris pour défendre.
Même l'entraîneur, il a le temps de reparler, de remobiliser son groupe.
Je sens qu'on va avoir beaucoup de surprises dans cette Coupe.
Et franchement, ça peut favoriser aussi le mauvais jeu.
Parce que
aides l'équipe en difficulté à reprendre son souffle et à repartir.
Après cette Coupe du Monde, ça va rester chance, le carton là.
Après, je ne sais pas si en Europe, ils sont capables de...
ils l'ont fait en finale de Coupe du Monde, en finale de Ligue des Champions déjà.
Non, c'est les temps à cause de la chaleur.
Ouais, la chaleur, c'est différent. Après, en Europe, je ne pense pas.
Ouais, je pense moins en Europe.
Le temps, il est tellement défavorable que...
Ok, merci messieurs, on va poursuivre. Alfred, est-ce que, à ton avis, est-ce que tu penses que les joueurs doivent prendre... donner des avis politiques et sociétaux ou se concentrer seulement sur le terrain, surtout là en vue de la Coupe du Monde et en vue de tout ce qui se passe autour. On rappelle que le photographe de l'Irak a été renvoyé chez lui, sans raison valable. On rappelle aussi que l'arbitre somalien qui a arbitré d'ailleurs la finale de la Ligue des Champions l'an dernier, le match retour entre Pyramide FC et Mamelodi Sundowns. L'arbitre qui se nomme. Attendez, je vous sors son prénom.
Qui a été refusé son visa.
Qui a vu son visa être refusé. Omar Abdulkadir Artan, un Somalien. Il avait fait plusieurs demandes de visa déjà qui ont été refusées. Nairobi l'ont aidé en faisant tout simplement, en lui donnant un passeport diplomatique. Un passeport diplomatique, mais ça n'a pas suffi puisqu'il est arrivé là-bas et on l'a renvoyé dans son pays. Donc il ne pourra pas arbitrer. Durant cette Coupe du Monde, est-ce que pour toi c'est un scandale? Est-ce que pour toi les joueurs doivent prendre position sur tout ce qui se passe autour de ça, même en vue de l'Iran qui auront leur base au Mexique et pas aux États-Unis?
De façon honnête, quand tu es sportif, si tes déclarations portent sur le sport, oui, c'est normal que tu agisses. Mais au niveau de la politique, je pense que tu dois carrément t'écarter. Si c'est une injustice qui frappe l'humain, oui, en tant qu'humain, tu réagis. Là, l'étiquette sportive est quitte. D'accord. Maintenant, concernant cette histoire de passeport diplomatique dont tu as évoqué tout à l'heure, je prends un exemple très simple. Le jeune frère de Blaise Compaoré, François Compaoré, il était ici dans le 78 et tout, hein, quand il est parti en Côte d'Ivoire, il avait une carte de résident. Quand il est sorti, la France, elle a rayé. Le président de Côte d'Ivoire lui a donné un passeport diplomatique. La France lui a dit, nous, on ne reconnaît pas. Donc pour moi, ce n'est pas nouveau. Hein. Après, aux États-Unis, quand ils décident de ne pas...
Oui, mais après, eux, c'était que de la politique. Là, ce n'est pas que de la politique. Là, c'est un arbitre.
En fait, dans le cadre de leur Coupe du Monde qu'ils organisent.
Voilà, c'est dans le cadre de la Coupe du Monde qu'ils organisent. C'est la FIFA qui ont choisi son truc. Et ils ont fait appel aussi pour demander à la FIFA d'aider. La FIFA n'a pas aidé aussi cet arbitre. Donc, on ne comprend pas trop, en fait, qui décide. Si c'est les États-Unis qui décident.
La FIFA se plie aux règles des Américains.
Bien sûr. C'est
la puissance.
Ce que tu as dit, c'est ce que je vais te rappeler. Lorsque Platini tombe, lorsque Blatter tombe, c'est quelque chose c'est une enquête qui a été menée depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que le Qatar, quand elle a organisé, Sarkozy et Platini, ils étaient contents. Quand ils ont été reçus à l'Élysée, toute cette magouille-là, c'est ça qui a fait que les États-Unis ont fait tomber ces gens-là. Donc pour moi, le veto américain, il restera toujours fort. Faut pas... Voilà, c'est comme ça.
Jason, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, je pense que les joueurs ne doivent pas parler de ça parce que ça risque de leur retomber dessus. Mais c'est toutes les personnes extérieures, que ce soit journalistes ou autres, qui devraient plus en parler, même si je ne pense pas que ça changera quelque chose parce que la FIFA se plie aux exigences des Américains. Mmh. Et surtout qu'on sait que la Coupe du Monde aussi a été faite là-bas, surtout pour l'argent. Donc... sachant qu'il y a des supporters qui ne peuvent même pas se déplacer, qui ont été bloqués, il y a beaucoup d'Africains qui ne pourront même pas assister à la Coupe du Monde, alors que la Coupe du Monde est un événement, comme avait dit Pep Guardiola. Tout le monde attend ça, c'est quelque chose que tous les pays veulent voir et sont prêts à se déplacer. Et là, on te bloque pour aller voir ta nation. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais bon, s'ils ont décidé de mettre l'argent en avant plutôt que le côté sportif et festif, on peut rien y faire. Hein.
Ah non, est-ce que tu es du même avis ?
Ah, je suis du même avis. Après, le foot, c'est l'argent qui mène. Hein. C'est l'argent.
Et pour toi, les joueurs ne doivent pas prendre de position ?
Bah,
ils doivent pas s'exprimer.
Moi, pour moi, ils ont quand même du... Enfin, certains joueurs, ils ont quand même du poids, donc ils peuvent. Mais est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont être solidaires ? Ça, je ne sais pas.
Non, mais est-ce que toi, tu penses qu'ils doivent le faire ?
Moi, pour moi, oui. C'est des choses humaines, pour moi, oui.
Merci. Omar ?
Ouais, pour moi, après, c'est des êtres humains comme tout le monde. Donc après, ils peuvent donner leur avis. Mais moi, c'est surtout des institutions comme la FIFA. Il y a un arbitre international que vous avez sélectionné, que vous avez choisi pour venir arbitrer la Coupe du Monde. Je sais pas, moi, faites en sorte qu'il puisse venir faire son métier, quoi. Il demande de faire son métier et rien de plus. Et moi, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment dommage et c'est honteux. Après, voilà, personnellement, moi, après, si c'était que moi, j'aurais jamais donné la Coupe du Monde aux États-Unis. Il n'y a pas la ferveur du foot là-bas, comme il peut y en avoir sur tout le reste. Après, on va me dire, oui, mais le Qatar aussi. Mais le Qatar, je trouvais
qu'ils ont su installer cette ambiance.
Ils ont su installer cette ambiance et il y avait vraiment... En tout cas, on peut reprocher beaucoup de choses au Qatar, mais l'organisation, franchement, sur la Coupe du Monde, il n'y avait rien à redire. Pendant le mois où on a vécu la Coupe du Monde, c'était parfait. Et voilà, donc...
moi, parce que même là, aux États-Unis, quand tu vois le prix des places, c'est à moitié, on te dit, ne viens pas.
Ouais. 600 euros la place, et c'est les places en hauteur, là, sur le côté.
Tu dois avoir ton... En fait, c'est un concours de quoi. Tu dois avoir ton visa, tu dois payer... En fait...
Si t'as pas 10 000 euros, tu peux pas assister à un match et voyager, manger et dormir.
Et même quand tu vois New York, pour les gens qui vont suivre le match de l'équipe de France, là, quand tu vois qu'ils ont augmenté les prix des billets à 100 $, mais on va où en fait ?
Alors, ils ont augmenté le prix des transports. Il
ne faut pas oublier que le foot, c'est le sport le plus populaire au monde. Donc, mais là, c'est le contraire.
Là, franchement...
Merci messieurs, en tout cas, voilà, hein, c'était tout pour cette Coupe du Monde, messieurs, hein, on va la suivre bien évidemment à partir de la semaine prochaine, hein, on va commenter tous les matchs, hein, vous serez là, en tout cas vous allez suivre avec nous, et tous les lundis on sera sur un format spécial, hein, pour 2 heures 100% football, hein, avec Philippe qui animera la première heure, et moi-même la deuxième. Hein. On sera plus sur ce format-là. Et bien évidemment, on va commenter et suivre avec un avant-après-match tous les matchs de l'équipe de France en espérant qu'ils iront le plus loin possible, messieurs. Voilà, nous allons nous faire une petite virgule hein, avant de revenir avec un petit point sur les mercato. Le mercato, hein, Florentino Pérez qui a été réélu à 68% face à Riquelme, lui qui a promis de faire une offre pour un Galactique hein, sans dévoiler son nom, hein, juste en donnant quelques petites indications. Nous y revenons juste après. Florentino Pérez qui a été réélu hein, pour un sixième mandat, messieurs, on n'a pas besoin de rappeler la vitrine de Florentino Pérez, hein, tout ce qu'il a rapporté, tous les trophées qu'il a amassés durant ces périodes-là, et qui compte faire de même pour ses prochaines années. Il a déjà signé Konaté, Dumfries, il annonce le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid et voilà Pépé qui fera partie de l'effectif de José Mourinho, mais ça c'est entre eux, et bien évidemment une offre qui disait qu'il allait faire pour un Galactique, une offre de 150 millions qu'il va envoyer
demain.
Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ça et des recrues déjà Konaté, Dumfries qui arrivent au Real Madrid? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, en sachant que Nico Paz sera de retour, Hendrik aussi sera de retour. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, moi, je pense déjà sa réélection, je trouve que c'est logique. Après tout ce qu'il a fait pour le club. Après, là, le début de Mercato, moi, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font. Hein. Parce que récupérer un Konaté gratuitement, Dumfries à 20 millions d'euros, alors que ça vaut plus, mais bon, comme il est en fin de contrat... là, franchement, il est en train de construire une bonne équipe. Il y a encore un autre défenseur qu'ils vont aller chercher, plus cette offre de 250 millions qu'on va découvrir demain. Après, est-ce que c'est un projet galactique ou... J'ai l'impression qu'ils sont en train de combler les trous qu'il y avait cette année, je trouve.
Merci, Moussa. Omar ?
Moi, je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, voilà. Pérez a été réélu, je pense que c'était logique. Après moi je trouve que cette saison elle s'est mal passée au Real, mais au moins il y a une bonne chose qui est arrivée, c'est que Pérez, je pense qu'il s'est remis en question et là je pense qu'il veut vraiment mettre les moyens de 1 pour revenir au top au niveau de l'Espagne et mettre fin à l'hégémonie du Barça, et 2 faire son grand retour dans la Ligue des Champions, dans la compétition où il excelle. Donc voilà, pour l'instant moi j'aime bien son mercato, j'attends de voir la suite.
Et pour toi, qui est le galactique mystère qui
devra... c'est Vitinha.
Pour toi, c'est Vitinha.
Ah, pour moi, c'est Vitinha.
Moussa, pour toi, c'est qui?
Non, pour moi, c'est un attaquant.
Et c'est qui? Pas,
je dirais Olise, moi.
Olise?
Ouais.
Ah, ça fait doucement rire, Alfred. Hein. Alfred qui ne veut pas se détacher d'Olise. Hein. Pour toi, Olise est intransférable, Alfred.
Je pense qu'il faut féliciter sa réélection.
Ouais.
Mais il peut prétendre construire des choses. C'est un grand club, hein, je veux dire. Mais même à 300 millions, je ne crois pas que le Bayern va céder.
Moi, je suis d'accord avec toi. Mais...
Pourquoi je dis ça? C'est qu'ils ont eu Alaba, parce qu'Alaba était...
Enfin,
donc, au Bayern, je ne pense pas que...
Ah, ils ont eu Toni Kroos aussi, hein, le coup du siècle.
Oui, mais oui. Le cas Toni Kroos, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que Rummenigge a dit « je ne pourrais pas te payer ». Et moi, j'ai des doutes.
Non, il a dit « je ne peux pas te payer parce que tu n'es pas un joueur de classe mondiale ».
Voilà.
Alors que après,
voilà.
Mais on a vu ce que Kroos a fait.
Voilà, maintenant, Toni Kroos, franchement, il a fait de bonnes choses au Bayern. Donc.
Mais maintenant, si Olise dit qu'il a envie d'aller au Real, est-ce que tu penses que ça pourrait favoriser son départ?
Ça, c'est sa volonté à lui.
Pas la volonté du club.
Pas la volonté du club.
Mais moi, maintenant, quel club va garder un joueur qui ne veut pas rester?
Maintenant, même si le chèque est sur la table, si son agent est dans le contrat... ça lui donne la possibilité de partir, partira. Mais si ça ne lui donne pas la possibilité de partir, il restera. Et si
toi,
tu restes...
Et pour toi, quelle décision il doit prendre?
Pour moi, je pense que...
Parle pas en tant que fan du Bayern, vraiment.
En tant que lui, sa carrière.
Quand tu es salarié d'un club, je pense qu'il faut partir avec les honneurs.
Ouais.
Le Bayern ne termine pas avec un résultat... Pas ça.
Limite avec la Ligue des Champions.
Déjà, la Ligue des Champions, leur parcours renfloue les caisses. Ils ont gagné de l'argent. Ils ont terminé premier. ils ont gagné la coupe, ils vont peut-être gagner même la super coupe face à, je sais pas, à Francfort, ouais. Francfort pour, je sais pas, ou le Borussia. Maintenant, je dis une chose, parti au Real, je ne dis pas c'est pas bien, mais est-ce que Olise va briller comme il brille au Bayern?
Non.
Il y a ça aussi. Et s'il ne brille pas, faites référence à là-bas qui est parti dans les tout débuts, ça bouge un peu vers la fin. Il part
à cause incognito. De blessure.
Voilà, même blessure ou pas, mais écoute, il
non,
sort.
C'est à cause de blessure, parce il que sort... quand il vient, quand même, il prend quand même une Ligue des Champions.
Ouais, mais il
fait
sort,
quand même un
il
beau
sort,
travail.
Il sort de la
Bernabéu se souvient de la chaise. On lui a apporté encore sa chaise avant de partir.
Mais est-ce qu'il a été ovationné son départ?
Il a été ovationné à son départ. Bien sûr qu'il a été ovationné.
Mais là-bas.
Bien sûr qu'il a été ovationné.
Pour moi, il n'est pas parti. Il n'est pas sorti.
Ah si, il a été ovationné. On t'a pas dit qu'on a fait des feux d'artifice, explosion. Il y avait Carvajal aussi qui a été ovationné. Mais même lui, alors que lui devait avoir un. Voilà.
Il a fait de bons services. Voilà.
Il a été beaucoup blessé ces dernières années.
C'est un peu voilà. Et il avait un très gros salaire. C'était le deuxième plus gros salaire du Real Madrid. Du coup, voilà, tout
donc
ça, ça compte.
Donc, toi, ton souhait, c'est qu'Olise rejoigne.
Moi, je t'ai pas dit ça. Non, moi, je t'ai pas dit ça. Je t'ai juste posé une question. Est-ce que pour toi, Olise devrait partir au Real Madrid?
Pour moi, non. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on regarde, je dis une chose, il faut faire ton acte. Prenez Kylian Coman. Même s'il a quitté la Juve pour venir au Bayern, c'est un bon joueur. À la Juve, il était bon parce qu'il était jeune. Et quand il est venu au Bayern, il a crucifié la Juve. Il y a eu la Ligue des Champions où le Bayern était mené 2-0 et que le Bayern a remonté 3-2. Mais c'est grâce à ses exploits. Olise, il est encore jeune. Pour pouvoir gagner en maturité, il faut patienter un peu. Maintenant, si son intention est de partir, la porte est ouverte.
Oui.
Jason.
Pour ma part, Olise, il ne devrait pas aller au Real. Parce que déjà, bon, le club ne s'est pas encore rétabli de tous ces traumatismes de l'an dernier. Déjà, c'est-à-dire que tu vas arriver dans un club déjà qui n'est pas encore restabilisé. Toi, tu vas revenir déstabiliser là où la stabilité n'y est pas du tout, donc devant.
Je ne veux pas te couper. Et encore, il n'a pas un entraîneur qui est humble comme Zidane. Il part. Si réellement Mourinho signe, c'est pas quelqu'un de facile.
Il a signé.
C'est pas un entraîneur facile.
Ah oui.
Mais tu sais que tu vas grandir avec lui.
Aussi.
Parce que c'est l'un des plus grands coachs. Mais... La France, d'ailleurs, a ouvert le score. Hein. Et bien évidemment, c'est Michael Olise qui a.
Moi, je pense que. Je pense qu'au Bayern, il a. L'atmosphère. Enfin, l'environnement, il est mieux pour lui, je trouve. Pour qu'il évolue. Après, pourquoi pas à l'Oréal? Mais là, je trouve que venir là. Après un an, deux ans au Real.
Non, je pense qu'il devrait encore se façonner encore au Bayern. Parce qu'au Bayern, on lui donne les clés.
Et il évolue.
Et le problème, c'est que s'il vient au Real, il n'aura pas les clés. En fait, les clés, ils sont trop distribués à trop de personnes.
En fait, il sera dans un ensemble de groupes.
Après, ça peut faire.
Ça peut très bien.
Ça peut faire une attaque comme on avait avec la BBC.
Avec la BBC.
Gareth Bale qui était à tout son honneur. Gareth Bale qui a marqué aussi l'histoire du Real Madrid.
Quand tu prends la BBC.
Et en sachant que là, quand tu arrives là-bas aussi, tu as un rôle de sauveur. S'il gagne la Ligue des Champions l'année prochaine, tu as du crédit tout de suite. Parce que tu te dis quoi? Avant ça, ils n'arrivaient pas. Là, moi, je suis arrivé, on prend la Ligue des Champions. Et je fais une bonne saison, comptablement.
Là où pour moi, je ne les compare pas à la
BBC.
Et
là, déjà, il prend déjà. Et pour moi, à la place d'Olise, hein, dans le sens où il prend un truc. Parce que tu joues au Bayern. Tu vas au Bayern, tu es pratiquement sûr de gagner le championnat, la Coupe d'Allemagne, etc. Il n'y a pas réellement de défi. Ton seul défi, c'est en Ligue des Champions.
Ouais, mais ça fait pas longtemps que Olise commence à gagner. Oui.
Bien sûr, non.
Il faut le laisser encore manger des trophées.
Moi, je t'ai pas dit le contraire. Mais je te dis juste qu'en gros, quand tu arrives au Bayern, pour moi, c'est facile parce que il y a la Bundesliga. Demain, même quand tu vas atteindre un cap, tu vois la saison qu'il fait, par exemple. Au Bayern, il fait la même au Real, je suis sûr qu'il prend le ballon d'or, ou en tout cas il est dans les top 2 sur assuré du ballon d'or. Au Bayern, ce qu'il ne va pas avoir.
Oui, peut-être, mais la différence, elle est là au Bayern, il est bien. Pour l'instant, il remplit son armoire. Real, son armoire, elle était vide. Là, il remplit petit à petit chaque année son armoire. Il commence à façonner sa personne.
Il est dans deux ans, moi. Moi, je dirais plutôt un départ dans deux ans.
Tu lui fais 2-3 ans au Bayern, il devient bien confirmé.
Le Real, ça se refuse pas, des fois.
Aujourd'hui, si tu refuses le Real, demain, il y a quelqu'un d'autre qui viendra à droite.
Non, mais t'inquiète pas, s'il reste sur les mêmes statistiques, il sera toujours autant courtisé.
Mais je pense qu'avec le Bayern, il a plus de chances de prendre la Ligue Champion qu'avec le Real. Je pense.
Et là où je te disais que moi, je ne les compare pas, je peux pas les comparer à la BBC, c'est que là, l'attaque, c'est des mangeurs de ballons. Et la BBC, c'était pas des mangeurs de ballon. Là, eux, c'est chacun prend la balle et fait son fait son truc à la Robben, ou lui fait son truc à la Robben, l'autre il fait ses débordements de fou malade, Mbappé qui redescend, qui veut croquer les ballons, qui fait son passement même qui sert à rien avant de faire la passe. Il y a trop de Schmidblick avant de jouer simple.
Faudrait
c'était du direct.
Mais t'avais qui comme coach? T'avais Zinedine Zidane avec la BBC.
Oui.
Avant ça aussi, avant Carlo, qu'il y a vraiment t'as Carlo Ancelotti, et avant qu'il y a la BBC même, t'as encore les Monsieur Tosi, Liguen, etc., etc.
Ouais, mais ces mecs-là, tu peux pas les dénaturer.
José Mourinho. Ouais, mais t'as un mec comme José Mourinho, tu sais que là, quand il arrive, c'est autre chose.
Oui,
il
mais
arrive
même...
avec un autre poids.
Ouais, mais.
Avec un autre standard. Tu sais que c'est des joueurs qui vont changer. Les trucs que Mbappé va faire en mauvais, tu sais que là, il va lui dire.
Je
veux plus que tu fasses ça. Si tu le fais, tu sors. Moi, en tout cas, pour moi, il n'y avait pas de coach idéal autre que José Mourinho pour le Real
Madrid. Moi, sur l'aspect de leur football, moi, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens se tournent vers Olise, c'est ce qu'il fait actuellement. Donc, si tu le dénatures, si tu prends Real pour le dénaturer.
Moi, je t'ai pas dit que tu le dénatures.
Oui, mais parce que tu me dis que Mourinho, il le bride.
Non, c'est pas lui qui va brider. C'est juste dire ce qu'il doit faire. Comme des mecs comme Mbappé, croquer le ballon, revenir au dessin. Tu crois qu'avec José Mourinho, il va lui dire fais ça
Moi, j'attends de voir.
Non, moi aussi, tout le monde attend de voir. Mais en connaissant José Mourinho, je sais que ce n'est pas pour qu'il rejoue dans les mêmes registres. Sinon, il viendrait pas. Voilà. Moi, pour moi, c'est là.
Après,
et c'est là qu'il grandit aussi, derrière.
Après avoir
ça peut changer toute sa carrière. Oui, c'est vrai.
Après avoir
ça change toute sa carrière.
Ouais.
En tout cas, voilà. Même s'il reste, pour moi, il peut rester 5 ans, 10 ans au Bayern. Tu peux prendre une Ligue des Champions, deux Ligues des Champions, pas plus. Or que
oui,
tu
pas plus.
Au
oui,
Real, tu sais que sur 5-10 ans, t'en prends 3-4 oui, facile. Tu vois, ça change déjà aussi. Ça change. Et t'as une vraie rivalité. Tu joues des classicos en championnat. Tu vas pas jouer des classiqueurs. Des classiqueurs que tu sais que
après,
t'as déjà gagné, tu vois.
Excusez-moi, ouais, mais voilà après, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Je veux pas relancer le débat parce qu'il reste deux petites minutes.
Tout dépend si au Real, il tombe dans des années creuses. Parce que avant que le Real reprenne sa Ligue des Champions, ça va attendu quelques temps.
Hey, il peut venir l'année prochaine, peut-être.
Ouais, mais et rester dans un gouffre ou pendant
la vie. C'était quoi l'équipe aussi? Voilà. Ça change. C'était pas les mêmes équipes, messieurs. Ça change. Mais. On va poursuivre, messieurs. Hein. Voilà, il y a Gordon qui a atterri aussi au Barça. Oh, Omar, je vais t'entendre. Bonne pioche ou non?
Non, moi je pense pas.
Pour toi, c'est pas l'homme de la situation.
Non, c'est pas l'homme de la situation. Ils ont besoin de défenseurs, ils ont besoin
d'un attaquant pointe qui met des buts au départ de Lewandowski et Ferran Torres.
Oui, voilà.
Qui est pas situé.
Oui, à la limite, s'ils auraient pris un attaquant pour remplacer Lewandowski numériquement, j'aurais compris. Mais là,
Gordon,
franchement,
c'est un peu du même registre.
Gordon, autant garder Rashford.
Ouais, c'est la même chose que Rashford.
Il s'était acclimaté. Là, tu vas prendre un mec qui doit s'acclimater et qui en plus.
80 briques aussi, faut pas.
Regarde le prix, et tout le monde parle de Gordon parce qu'il a mis son triplé ou son.
Non, il a mis 10 buts en Ligue
des Champions. Mais regarde combien de buts il a mis la saison.
Avec 4
non, je sais.
5,
non, mais
5
en
penalties.
Fait, moi je pense qu'ils prennent Gordon.
Et regarde contre quelles équipes aussi.
Pour moi, ça coûte cher.
Ils prennent Gordon, c'est pas pour remplacer le vent. Moi je pense qu'ils prennent Gordon parce que son profil. C'est un attaquant qui défend beaucoup, qui a beaucoup
qui
de...
Qui est polyvalent.
Voilà.
Qui est polyvalent.
Qui peut jouer en neuf, qui peut jouer de son côté.
Mais t'as trop d'attaquants qui sont polyvalents. Ferran Torres, il est polyvalent.
Ouais, c'est ça.
Tout autant polyvalent.
Ouais, c'est vrai.
Mais... Rashford aussi, il est polyvalent. Il peut jouer à gauche.
Il est plus au Barça, là, non?
Non, il en peut, parce qu'il coûtait, son salaire était trop élevé.
Ah.
Donc, ils l'ont pas gardé.
Du coup,
c'est pas sûr, ils négocient encore. Hein.
Ils négocient pour
repartir. Ils ont pris Gordon.
En tout cas, ils disent que ça négocie encore. Oui. Excusez-moi, messieurs, mais en tout cas, voilà pour ce qu'il en est. On va juste poursuivre avec le quiz, messieurs. Daniel, c'est quand tu veux. Téléphone posé, retournez sur la table, s'il vous plaît. Pour le fameux quiz, qui a marqué le premier but de la Coupe du Monde 2022, messieurs?
C'est pas... Valencia.
Exactement, c'est Ener Valencia. Ener Valencia, auteur d'un doublé, eux qui s'étaient imposé 2-0 face à...
Le Qatar.
Le Qatar, exactement.
C'est l'ouverture.
Ouais, merci Omar, un point. Qui a mis le premier but de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022?
Mbappé.
Giroud.
Griezmann.
Non.
Hernandez.
Le premier but de l'équipe de France
en 2022. Sur la Coupe du Monde 2022. Sur la Coupe du Monde
2022.
Sur la Coupe du Monde 2022.
Ah bah c'est Rabiot là.
Pogba.
Exactement, c'est Adrien Rabiot.
Rabiot.
C'est Adrien Rabiot qui a mis le premier but. Il s'était imposé 4-2. Et c'est Adrien Rabiot qui met le premier but. Oui. Qui a été le premier buteur de la petite finale de la Coupe du Monde qui opposait la Croatie face au Maroc pour la troisième place.
Enesri ?
Non.
C'est pas Perisic ?
Kramaric ?
Non, c'est vrai, pas Kramaric. Comment ? Est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît ?
Comment il s'appelle, lui qui est parti à Chelsea, là ? Qui a joué au Real avant, là. Comment il s'appelle ?
Kovacic ?
Ouais.
Non plus.
Rakitic ?
Monsieur, vous allez tous les faire ?
Ah, franchement.
Bah là...
Moi, j'aurais dit... Ouais...
Non, on n'était plus
on
là.
On va bientôt te dire qu'elle est ta carte. C'est un croate qui a marqué, hein ?
J'ai pas dit que c'était un croate.
Non, il a pas dit que c'était un croate.
Je sais même pas c'est quoi le score.
Mais si, c'était 2-1, mais moi, pour moi, c'était un croate.
2 buts à 1 face au Maroc.
C'est pas Guardiola ?
Exactement, c'est Gvardiol. Gvardiol qui a marqué à la 7ème minute sur une passe décisive de Perisic. Oui, c'est bien lui, messieurs. Dernière petite question. Qui a affronté la Croatie en quart de finale 2022 ?
Le Brésil ?
Et qui a été... Non. Et quel a été le score final ?
En quart de finale en 2022 ?
La Belgique ?
C'était le Brésil.
C'était le Brésil, non ?
Non, le Brésil. Ben non, parce que...
Non, c'était pas le Brésil.
Brésil-Croatie, c'était pas quart de finale ?
Non.
C'était 8ème, alors, ça.
Bah non, moi, j'ai le Japon. Le Japon ?
Ouais, peut-être.
Non, c'était pas le Japon. Le Japon, c'était en 8ème.
Bah non, moi, je vois pas.
Ah si, excusez-moi.
Mais c'était le Brésil, quand même.
En quart de finale, c'était le Brésil.
Ah, voilà, Jason, il l'avait dit,
ouais. Ouais, Jason, le point est accordé. Et en 8ème de finale, c'est la 8ème de finale que je voulais, de base.
Ouais, c'était le Japon, en 8ème de finale.
Ouais, c'était ça. Le point est donné à... Jason, bravo Jason, ça te fait un point. Un point pour Moussa et deux pour Omar. Zéro pour Alfred. Alfred, t'étais pas trop réveillé cette fois-ci. Hein. peut-être la prochaine fois. En tout cas, voilà, merci pour cette émission.
Merci
Jason. Merci à Moussa, merci à Omar, merci à Alfred. Merci à Daniel à la technique. Merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. Hein. On se revoit là pour le match de l'équipe de France de la Coupe du Monde, hein, le premier match qui opposera face au Sénégal. On va commenter ce match-là en direct. On aura l'avant et après-match. Et on se dit à très bientôt pour du football, encore du football, toujours du football. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous.